Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission dédiée au meilleur animé manga du cosmos, Senseiya.
Ouais.
Animé par moi-même.
Ouais,
plus vite, plus vite.
Ouais,
animé par moi-même.
Moi, tant qu'on me dit pas de monter les décibels, je dis rien. Hein.
Animé par moi-même, le leader dont l'autorité n'est plus approuvée, Kamen Majo. Merci, non, merci.
Et pour Majo, et pour, alors là,
que
pour
des fans.
Pour Majo, un applaudissement.
Ouais,
merci, merci.
Un seul.
Et pour co-animer cette émission avec moi, un faible chevalier d'argent, Pedro.
Il
est faible.
Et je suis le chevalier de la mouche.
C'est un pléonasme, hein, je signale. Et pour nous accompagner dans cette émission conviviale, fun et décontractée, le dessinateur du sud de la France, David.
Salut,
David. C'est chaud public.
Le dessinateur qui ne parle plus qu'il ne dessine, Ouv.
Ouais.
Et le grand papa du sanctuaire, Philippe.
Salut Philippe. C'est le grand pape du sanctuaire, Philippe. Le grand pape.
Au sommaire ce soir, vous rêvez d'un dépoussiérage. Ça tombe bien, la série originale est ressortie en Blu-ray. Après Omega, voici venir la nouvelle série originale dédiée au Gold Saint, Soul of Gold, le gros débat de ce podcast. Dans l'émission numéro 1, nous abordions le précédent jeu Brave Soldier. 2 ans après, on a l'impression d'avoir effectué un retour vers le passé. Avec Soldier Sol, un dieu maléfique vient de nouveau s'emparer de la Terre. Cette cruche de Saori est de nouveau en danger. Les flammes de l'horloge du sanctuaire sont encore allumées. Et comme d'habitude, personne ne sait où est l'Ancient Notion. Il est donc temps, pour nous chevaliers, non pas d'accroître notre cosmos jusqu'au 7ème sens, tout en montant des escaliers, mais de faire monter des décibels avec nos micros. Donc on va commencer tout de suite avec le Bourré Senseiya, donc sorti 2 ans après le Japon, édité par AB en 3 coffrets, le premier est sorti en septembre, regroupant les épisodes 1 à 35, s'intitulant La Reconquête de l'Armure d'Or. En octobre est sorti le deuxième, intitulé Le Sanctuaire, donc les épisodes 36 à 73, et en décembre sortira le coffret Asgard Poséidon, regroupant les épisodes 74 à 114. Tous au tarif de 35€, donc 105€ au total. Sauf sur certains plans, parce qu'il y a un effet de flou qui ressort, comme par exemple Milo dans la salle du Grand Pop, hein, qui est super flou, c'est super moche. Ça à cause d'un filtre, un filtre DNR qu'ils utilisent pour la remasterisation. C'est pas vraiment une remasterisation, juste un filtre qui est appliqué sur l'image. Le son est pas optimal, c'est le même que sur les DVD. Ça grésille un peu. Le packaging est réussi avec de très belles illustrations. On notera quand même le manque de bonus, de livret, etc. qu'il y avait par exemple dans l'édition DVD. Et il y a un bon rapport tel qu'il était pris par rapport au DVD, donc ceux qui n'ont pas le Blu-ray, qui n'avaient pas le DVD, procurez-vous le Blu-ray, ça vaut le coup. Par contre, si vous avez déjà le DVD, gardez-le, ça vaut peut-être pas le coup de réinvestir dans le Blu-ray. Voilà, donc je passe la parole à mon ami Pedro, qui est sûrement pas d'accord avec moi.
Voilà. Alors, d'accord avec toi sur pas aussi quelques points quand même, faut pas déconner. Non, bon rapport qualité prix, oui. L'image, bon, ils ont gardé le format 4 tiers, ce qui donne un côté un peu rétro à l'image, mais avec quand même une bonne qualité d'ensemble. Comme tu disais justement, certains flous sont des fois assez horribles, notamment le flou de Milo avec les armures d'or, où on reste très longtemps sur lui, il est flou très longtemps, donc il est fou à fleurer, j'ai envie de dire. Parce que c'est très très moche, mais en plus on insiste lourdement dessus. C'est pas que c'était juste un plan, voilà. Sinon on reste 20 secondes, genre bonjour, je suis moche, quoi. On savait qu'on l'on voit, on le voit, quoi. Donc ça, bon, après la qualité audio peut-être discutable sur la piste japonaise, parce qu'on va pas se mentir, on a regardé quelques épisodes en français pour la nostalgie, mais on regarde maintenant en regardant japonais, faut pas déconner. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de côté un peu son, peut-être enregistré d'une VHS, enfin le son japonais est pas terrible. Peut-être un effort là-dessus aurait été intéressant, quitte à peut-être à re-enregistrer, redoubler, enfin voilà. Après, moi, sur Senseiya, c'est pas compliqué. Si vous êtes déjà les DVD, honnêtement, passez votre chemin si vous n'avez pas les DVD ni les Blu-ray, que vous vouliez acheter la série pour la découvrir ou la faire découvrir à vos enfants, à votre famille, enfin n'importe quoi, achetez-les. Mais n'achetez pas la partie 1, ça ne sert à rien, parce que la partie 1, c'est de la merde. Voilà, je le dis, je le redis encore et toujours. Senseiya, ça commence au combat contre les Gold et ça s'arrête au combat contre les Gold. Non, ça s'arrête voilà. Là où ça s'arrête, mais voilà, commencez, je pense, par la partie or et épargnez-vous les 35 épisodes de filler d'avant qui ne servent à rien et qui n'ont aucun intérêt.
acheter le coffret pour les épisodes 19 et 20 avec les cheveux des abysses.
Putain, reste encore cet épisode du mal. Donc voilà, donc voilà ce que je pense moi. Donc c'est quand même beau chose, hein. C'est quand même un beau cadeau, c'est un beau coffret. Pas de bonus comme tu disais, donc voilà, ça on va pas le répéter. Voilà, voilà. Bah David, à toi.
Ben concernant le coffret, au niveau de l'image, je pense que bon, il n'y a pas vraiment, je dirais voilà, une nette évolution par rapport en fait à la version DVD. Surtout que je pense que ce qui aurait été le plus intéressant, on va dire, c'est par exemple sur la version Blu-ray concernant le Tenkai. Là, ça vaut le coup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en termes de graphisme et tout, on utilise des nouvelles technologies pour élaborer justement l'OAV. Là, alors que là, on reste toujours quand même sur les, on va dire, sur les instruments qui ont été utilisés justement dans les années 88-89. Donc on va dire que bon, je pense pas vraiment que le que de on va dire le avoir le Blu-ray change vraiment quelque chose. Après concernant voilà, concernant l'histoire des saisons, bah moi je partage pas trop l'avis de mon collègue, ça serait plutôt justement le fait de d'aller bah, de tout regarder de A à Z, parce que bon, je pense que si on a créé un début, surtout en fait sur une série de ce calibre-là, parce que bon, c'est quand même un des meilleurs animes, on va dire, de son époque, et même encore aujourd'hui, je trouve, quand on compare en fait avec les autres animes qui se font aujourd'hui, ça reste toujours le top quand même. Surtout que ça a été fait par Shingo Araki, qui est quand même un génie du graphisme.
Et, pas toujours, vraiment. Il y a plusieurs épisodes où c'est pas du Araki, ça se sent. C'est des équipes d'à côté, notamment les premiers. Quand je dis clairement, la première partie discutable, c'est qu'autant ce
n'est. Non, les premiers, c'est du Araki, les premiers.
Ah oh, ouais, non mais alors, les trois premiers peut-être. Après, c'est
non,
merde.
Non, mais t'as plusieurs caractérisateurs en fait sur les épisodes.
Non.
Oh, là, tu as de la poussière dans les yeux. Là.
Non, c'est toi qui devrais t'acheter un labrador avec une canne. pour Noël. Et des cannes, crois-moi, t'inquiète, il y en a, donc tu te pommeras pas dans la rue. Il y a pas de souci.
Allez, rentre chez toi.
Mais c'était pas ça, c'était pas
là. Là, c'est plus à Flelou, là, c'est Robert De Miro, là.
Moi, je trouve personnellement qu'on dirait un béni oui-oui. Tu fais, c'est très bien. Écoutez, ici, on est là pour avoir un peu de sens critique. Moi, je suis pas là pour dire amen à tout. Voilà.
Non, mais faut critiquer pour critiquer. Je veux dire, je suis désolé. Si pour balancer un truc digne de ce que te déblatère une pomme de terre, faut mieux rien dire. Vico, il existe déjà. Donc, la chasse est gardée déjà.
Mais justement, Vico, c'est marrant, c'est pas que tu dis ça, parce que certains designs font clairement penser à des dizaines de pommes de terre dans la première partie. Et c'est faire preuve de mauvaise foi de pas vouloir le reconnaître.
Ah, au début, je veux dire, même pendant le tournoi galactique et tout, c'est du harakien.
Non, mais
il y a quelques épisodes. Les épisodes à la limite qui sont pas spécialement beaux, on va dire, c'est par exemple voilà le combat de Shiryu contre Seiya. À la fin, c'est vrai quand justement il y a certains passages, on va dire, concernant la fin du combat, qui ne sont pas forcément, on va dire, à l'honneur concernant le graphisme. Mis à part ça, en général, c'est plutôt correct. Donc.
Je t'invite vraiment à aller re-regarder ton coffret et cette fois d'enlever le filtre fan que tu as devant les yeux,
parce qu'il t'empêche
de regarder bien. C'est tout.
Comment on peut se dire être fan de Saint Seiya et dire en fait qu'il faut pas garder le premier chapitre? C'est comme si tu disais à une nana qui te plaît, enlève tes seins, quoi. Non, tu dis pas ça.
Non, je dirais, à une nana qui me plaît, je dirais enlève ta bouche, tu pourras pas m'ennuyer. Déjà.
Mais voilà, quand tu regardes une femme, tu regardes les seins plus le reste.
Hein. Et là, c'est pas... Moi, quand je suis avec une nana, je zappe directement les intros et je passe directement à la partie intéressante.
Ouais, stop, messieurs.
Là, celle-ci, comme tu en parles là. C'est la première partie, c'est la partie chiante où tu l'invites, tu fais seulement t'intéresser à elle et tu voilà. Et la bataille des golds, c'est quand tu la mets dans ton lit.
Commence par les yeux, après tu descends sur les seins, après tes yeux.
Merci messieurs.
Si tu veux à ce point
vous
faire
pas la fin de
un parallèle, justement,
les préliminaires, y compris les parties un petit peu embarrassantes.
Oui, oh, merde, mais tu peux pas dire que dans l'acte global, de dire que bah, c'est les préliminaires que t'as préféré. C'est non.
Mais t'as le droit de le regarder avec des souvenirs émus.
Mais je pourrais dire que si t'es aimé,
c'est bon, stop.
Si les préliminaires, t'es meuf.
C'est fini. C'est dommage.
Stop. Tu te souviens la fois où j'ai eu une panne? C'était drôle. Bon, maintenant, on
On parle de Saint et Saint Seiya. Donc, tu vois, il y a un appel.
Moi, quand on dit les saints d'Athéna, je pense pas au chevalier.
Elle a pas de
chevalier. Hein.
Elle n'a pas 13 ans, elle a pas 13 ans, Saori, c'est pas possible.
En termes de pécho, hein.
Bon, y a... la tradition qui consiste à dire qu'Athéna défend la paix avec ses seins, moi j'ai toujours préféré Chevalier.
C'est clair qu'en tout cas, avec des doudounes pareilles, t'auras pas froid l'hiver. Hein. Bon,
allez. Voilà. Merci messieurs, vous n'êtes pas partis en HS, c'est bien.
C'est bien.
Merci David.
Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci.
On va maintenant passer au débat Soul of Gold, le gros morceau de l'émission. Donc, annoncé en Tamashii Nation d'octobre-novembre 2014 avec de nouvelles Mad Cloth, les God Cloth des Gold, diffusé mondialement du 11 septembre au 26 septembre 2015, en France 3 jours après sur la chaîne Manga, à une heure très tardive, on retrouve les 12 chevaliers d'or ressuscités mystérieusement en Alien Rare. Donc, ces fameux guerriers d'exception qui étaient morts bravement lors des combats à Asgard, après leur supposée mort, les chevaliers d'or devant le mur des lamentations, Hilda étant tombée gravement malade, elle cède sa place à Andreas Lysé, qui s'entoure de nouveaux guerriers divins et ressuscite Yggdrasil, ce qui est interdit à Asgard. Hilda charge donc Lyfia, une servante, de destituer Andreas à l'aide des Gold.
Voilà. Et déjà, en disant ça, tu m'as rappelé à quel point le scénar était mauvais.
Faut bien introduire, hein,
Elle charge le truc, servante. Tu vois,
voilà. J'introduis, et après tu te démerdes pour l'enlever.
Elle était en train de faire la poussière. Elle a dit, toi là-bas, tu peux empêcher le mec de réaliser ses plans diaboliques. Allez, bisous, salut.
Voilà.
Moi, c'est pas le sandwich, là, c'est le bouclier d'Odin que j'ai avalé de travers, là.
Donc, les avis sont globalement négatifs si on se réfère à SSP et Facebook. Les Blu-ray sont sortis deux épisodes. Le premier en contenait 3. Ça fait 6 Blu-ray au Japon en tout. De juillet à décembre 2015, ils sont sortis. Ils sortent encore. Avec un livret et un CD audio pour chacun de la BO, plus des interviews du staff. Particulièrement les doubleurs.
Et des figurines.
Oui. Ben, c'est ce que j'allais dire. Et des Mitloff, donc Aiolia, Mu, Shaka et sont déjà sortis. Et Deathmask qui est prévu pour janvier, Aiolia en Godrobe pour Dodin pour mars, et Shura une date inconnue comme tous les autres Gold qu'on a vu au Tamashii récemment.
Et des figurines.
Voilà. Et les ventes de DVD-BR, Blu-ray sont à peu près correctes. Voilà.
Et des figurines.
Vous avez entendu les gars? Est-ce que vous entendez là? J'entends Shingo Araki qui glousse du ciel.
il pleure.
Nous entend, hein.
Mais c'est pas le. C'est, honnêtement, alors là, je réponds rapidement à ton attaque, histoire de pouvoir un petit peu justement montrer quelle sera la base du débat. Le vrai problème de Soul of Gold, c'est pas nécessairement que ses dessins. Et j'ai envie de dire, les dessins en soi, ça passe. C'est tout le reste.
Mais ça va pas la tête. C'est plus un labrador qu'il faut, c'est un gold dog là.
Non mais mec, c'est pas non mais là que tu aimes pas les dessins, je le comprends, mais c'est pas le gros problème, c'est pas le problème number one.
D'ailleurs Pedro, je vais te laisser commencer le débat au lieu de partir en couple seul avec David.
Et ben voilà, bon bah écoutez, voilà. Donc vas-y. Alors, on va parler rapidement donc de Soul of Gold, donc comme l'a présenté Majo, avant toujours ce petit retour rapidement, on va chacun faire un petit retour avant de commencer le débat. Est-ce que vous avez aimé Soul of Gold? Oui, non. Et qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous avez détesté? On va commencer par toi David.
Moi, j'ai adoré le détester, voilà.
Au moins c'est précis.
Alors, c'est comment expliquer
une petite raison quand même, voilà.
Ça dépend des gens. Moi, je suis très méticuleux sur le design. Et franchement, quand j'ai vu le design, je me suis dit foutage de gueule. Voilà. Après, c'est perso. Voilà. Déjà d'une, parce que on peut pas comparer ça. Moi, pour moi, c'est Senseiya, c'est Araki. Voilà. Le beau design, c'est du caviar.
Je t'interromps rapidement, mais qu'est-ce que tu as à dire sur les personnes, parce que c'est un peu le grand débat, je le coupe un petit peu. Qu'est-ce que tu as à dire sur les personnes qui préfèrent Senseiya quand c'est Kurumada au dessin? En clair, qu'est-ce que tu vas répondre aux gens qui préfèrent le dessin de Kurumada à celui de Araki?
J'ai rien contre les aveugles, moi. Ils ont le droit de vivre comme tout le monde. Il y a pas de problème. Mais oui, ils ont le droit d'avoir des problèmes oculaires. Ça arrive à tout le monde. Hein, c'est pas grave. Moi, j'adore les animaux. Hein. Je veux dire, j'ai rien contre les labradors et les cannes blanches. Je le dis depuis tout à l'heure. J'ai aucun problème contre eux. C'est pas un problème de tolérance, c'est un problème de logique, voilà. Pour moi c'est de la logique. C'est comme si tu disais par exemple, je sais pas moi, l'excrément d'un labrador c'est trop bon et une glace stracciatella c'est de la merde. Non, c'est pas possible.
Pour revenir sur le chara-design, en fait, le le chara designer qui s'en occupe, je me souviens plus de son nom.
C'est Umakoshi, c'est le même qui a fait Omega.
Non, non, c'est pas Umakoshi. Hein.
C'est
celui qui s'était chargé du chara design de BTX aussi, qui est lui-même un disciple de Araki. Il le reprend d'Araki.
Mais si,
voilà. Ça sort le twist. Hein.
Voilà. Il a bossé aussi dessus. Ah, mais le truc, c'est qu'il a fait quelque chose d'un peu plus soigné, on va dire.
Non, non, c'est pas Umakoshi. Hein. C'est celui qui a travaillé sur BTX.
Quelqu'un peut-il Wikipédia ça, s'il vous plaît?
Non, mais tu veux dire, toi, tu parles de BTX en fait, avec tes payes, les BT, etc. Là, avec,
oui, voilà, tout à fait.
FAO et compagnie, là, c'est ça? Le truc foireux, Kurumadesque, on va dire.
Oui, voilà. Oui, enfin, BTX a quand même des qualités, mais il faut le lire en manga. Moi, je trouve que c'est mieux.
Juste une aparté par rapport à ça, parce que bon, on parlait d'Araki, etc. C'est juste pour montrer quand même que là, tu vois, c'est pas Araki qui s'en occupait. BTX, ça a pas eu un succès phare. Mais bizarrement, heureusement que Monsieur Araki est arrivé là, parce que si il n'était pas arrivé là pour sublimer le chara design, je peux te dire que j'en connais un qui vendrait des churros sur la plage.
Non, mais je crois que là tout le monde sera d'accord avec toi. Le succès de l'anime, il est dû à Araki au début. Enfin, c'est clair que si Araki disait si l'anime avait eu un look pur Kurumada, ça aurait jamais marché.
Non, mais j'ai fauté sur un truc. J'ai dit Araki, mais c'est un duo. C'est Araki, voilà. Meno, voilà.
Donc le chara designer, c'est Hideyuki Motohashi, qui est donc à travailler sur BTX.
Ah ben, autant pour moi, mais c'est toujours du caca. Voilà. Désolé, ça change pas la donne au final.
Après, il y a le problème de son chara-design et le problème de la production en elle-même. C'est pas la même chose. Parce que t'avais déjà le même genre de problème dans l'anime original.
Ils étaient deux, hein, sur le chara-design. Il y avait aussi Fumitoshi Ozaki et Hideyuki Motohashi. Ils étaient deux.
Alors les gars, on va parler d'un truc qui est important. Vous venez de mettre le doigt sur quelque chose d'intéressant.
Non,
vous parliez d'opening et de musique par rapport les openings. Faut savoir un truc, c'est qu'aussi nous en fait dans les années 80-90, les animes, ils travaillaient sur le sens, on va dire, des génériques, des openings, des endings. Et en fait, les puisqu'avant c'était les make-up qui ont travaillé
Attends, alors je coupe ce que tu dis. Je coupe, je fais pause. On y revient juste après qu'on a fait notre petit tour sur tout le monde.
Ah, je savais pas.
Voilà, hop là. Interroger tout le monde.
Je te reprends et on en reparle juste après. C'est intéressant ce que tu dis. Christophe, ton avis sur Sensei Soul of Gold, est-ce que tu as aimé, oui, non? Est-ce que tu as détesté? Qu'est-ce que tu as adoré? À toi.
Bah, en fait, je voulais le détester parce que comme on le sait tous, même si tous les dessins animés, les animes sont faits pour vendre du merchandising, il y avait clairement une volonté à travers les personnages populaires que sont les Chevaliers d'Or de faire du fric, clairement. En plus, les envoyer à Asgard, j'en voyais pas trop l'intérêt, donc j'étais franchement vraiment pas chaud, quoi. En plus, le caractère design, je ne le trouvais pas laid, mais effectivement, il y avait une sorte de... Il y avait un contraste qui était assez marqué par rapport à ce qui s'était fait avant. Et finalement, en le voyant, je me suis rendu compte que j'attendais impatiemment la suite. Et donc, au final, j'ai beaucoup aimé. Alors, donc un peu la position contraire, j'étais vraiment quasiment en train de me dire ça va jamais le faire, et finalement non, bien, très bien, j'ai vraiment aimé.
D'accord, très bien. Philippe, même question.
Moi j'ai adoré, c'est normal, hein, quelque part, parce que je tenais aussi la poche, mais
commercial,
c'est aussi, oui, très commercial, tout à fait, mais quelque part c'est aussi la première fois qu'on avait un dessin animé où les bronzes n'étaient pas à l'honneur et où les golds étaient au niveau des bronzes, quelque part, au niveau de leur puissance. Et parce qu'au début c'était pas ça, hein. Voilà. Mais bon, mis à part, c'est vrai que les images n'étaient pas exceptionnelles au départ. Les images Blu-ray sont nettement meilleures, ça y a aucun doute. Et puis après au niveau musique, il y a quand même quelques musiques qui ont été récupérées d'avant pour pouvoir refaire quelque chose. Le fait que ce soit au niveau d'Asgard, c'est pour aussi parce qu'ils avaient pas le temps de recréer un univers à proprement dit. Hein, et c'est aussi un problème de moyens, parce que c'est vrai que la Toei n'a pas fait beaucoup de moyens, parce que c'est aussi un des rares dessins animés qui a été diffusé en streaming gratuit au niveau mondial. Hein, il y a qu'en France qu'on l'a eu et en Chine, il y a 2-3 télévisions qui l'avaient acheté en privé, mais il y a à la limite il y a très peu de pays où on l'avait pas gratuitement. Donc c'est rare quand même qu'on puisse, commercialement parlant, faire rentabiliser un dessin animé comme ça, quoi. Voilà.
Bah, c'est un dessin animé à petit budget, c'est pour ça. Si on était à la télé, peut-être qu'ils auraient gagné plus de moyens.
Majo, même question.
Bah moi c'est non. Tu le sais déjà, Pedro, hein, c'est pas le suspense. Alors moi c'est pas un problème de design parce que le chara-design se rapproche de celui d'Araki, mais après c'est des problèmes de production qui font qu'on a des gueules qui sont pas les mêmes selon les plans. Le gros problème du truc c'est son scénario et ses personnages, son nombre de personnages, qui fait que ces personnages qui sont trop, il y a trop de persos principaux, on retrouve les mêmes défauts que Omega saison 2. Trop de persos principaux dans 12 goals qui sont beaucoup trop balèzes quand on peut comparer aux guerriers qui sont en face. Pour moi, du Saint Seiya, c'est pas forcément Seiya et ses copains. C'est le Saint Seiya avec de l'épique, du je me relève, du de l'émotion, etc. Ce que tu n'as pas dans ce Saint Seiya là. Pour moi, ça s'appelle, c'est pas du Saint Seiya. Je peux pas être fan de ça. C'est tout. Et du coup, tu enlèves tout ce qui faisait de Saint Seiya quelque chose d'intéressant. Tu n'as plus rien. T'es une série complètement banale qui n'a presque pas d'intérêt.
Voilà. D'accord, très bien. Ça se tient. Ça se tient bien. Bah alors, question moi justement que j'aurais envie de poser à la fois justement à David et à Christophe. Ouv, vous qui êtes vous décidez tous les deux. Bon, il y en a un qui est pro, David qui est un peu plus lui dans l'amateurisme. La question, ce serait justement, qu'est-ce que tu aurais à répondre, toi, justement, Christophe, sur ce qu'il a dit sur les chara-design? Parce que toi, j'ai vu comment que tu aimais bien. Donc, qu'est-ce que tu aurais à répondre à David quand David lui dit que c'est très laid, que le chara-design est très moche? Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça?
Quand tu parles chara-design, tu parles du style général qui a été choisi ou du look pour chaque personnage?
Dans un premier temps, du style général choisi et ensuite du look des personnages.
Bah, je vais pas mentir, le look général, il m'a surpris. Hein. C'était... on avait un peu la discussion off. Avec Araki, on avait quelque chose de très stylisé, d'extrêmement élégant. Là, on avait quelque chose d'un peu plus... comment dire d'un peu plus... cherche le mot, je ne vais pas le trouver.
Araki, mais...
un peu moins Araki, donc. Donc, c'est venant en plus sur des personnages qui sont les Chevaliers d'Or, qui sont censés être l'élite, qui sont censés être beaux, propres, machin et tout, ça faisait un peu bizarre. Ceci dit, je m'y suis vite habitué. Justement parce qu'il y en avait un d'entre vous le disait, on retrouvait ce coup-ci les Chevaliers d'Or contre un peu diminués ou en tout cas pas forcément dans une situation où ils étaient à l'aise, et le fait de pas les avoir justement toujours avec un design super élégant, ça, je trouvais que ça correspondait un peu à cet état d'esprit du genre on est ressuscité, on sait pas ce qu'on fout là, qu'est-ce qu'on fait. Donc il y a eu une surprise, elle n'était pas mauvaise, elle était juste assez grande, et puis parce que la Toei nous a tellement habitués à jouer la facilité, surtout sur les Chevaliers d'Or, je me serais dit ils auraient fait du Araki sans manger. Quoi.
Et le Kara design te plaît ou pas alors? Pour toi,
je me suis rapidement fait, oui, il me plaît.
D'accord, donc pour toi la formule est gagnante.
Ça fonctionne.
D'accord.
David, qu'est-ce que Love Gold dans Araki, je le préférerais très probablement.
David, qu'est-ce que tu réponds à ça?
J'ai pas compris la dernière phrase.
Il ferait une version B de Soul of Gold avec le style Araki, je prendrais le style Araki, mais ça ne m'a pas gâché mon plaisir sur la série telle qu'elle est.
Ah d'accord.
À part les trois plans dessinés par le stagiaire, mais bon, sur le Blu-ray.
Il y a plus que trois points.
Il y a plus que trois points, malheureusement, oui.
Il y avait mieux son visage aussi.
Mais c'est pas le vraiment, encore une fois, bon, bref, on en parlera après. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, David? Donc, comme quoi, justement, le design.
Sans aucune agressivité et tout. Après, c'est une question de goût. Moi, je sais que, personnellement, moi, j'aime la finesse, j'aime le raffinement. Justement, je pense que le mot qu'il cherchait tout à l'heure, quand il parlait d'un côté de raffinement et que là, il parlait de look, je pense qu'il voulait dire que plutôt c'était plus basique, plus simple, plus sommaire quoi. Parce que bon moi quand j'ai vu un petit peu le quand il y a pas de finesse, ça manque vraiment de finesse en termes de par rapport aux yeux. Tu vois un doko avec une tronche complètement carrée, on dirait la mâchoire de Savia qui joue en Nouvelle-Zélande. au rugby. Enfin voilà, c'est un truc de fou. Moi perso, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé mais aucune élégance. Même les God Warriors, tu regardes les guerriers divins, ils avaient beaucoup plus de classe. Dans les premiers animes, t'avais Agen de Merak, t'avais voilà, il y avait une proposition. Même les guerriers, tu vois par exemple qui comme par exemple Cid de Mizar, même Thor, même voilà, c'était des guerriers qui avaient de la gueule quoi. Il y avait une certaine prestance, il y avait même une certaine masse physique qui était imposée. Là, c'est carrément imposé par rapport en fait à la dynamique aussi du corps, aux perspectives. Il y avait un réel travail. Là, il y a aucun boulot dessus. C'est on t'a balancé ça comme ça et en veux-tu en voilà. Je pense qu'ils se sont reposés aussi sur le fait que bon ben aujourd'hui on a de la technologie, on a des effets visuels, on a beaucoup plus de moyens qu'on avait avant. Et avant, en fait, excuse-moi le terme, mais avec un silex et un caillou, ben, on te faisait du magique, quoi. Et là, moi, perso, je comprends pas. D'ailleurs, ben, tout à l'heure, Philippe disait, oui, c'est quand même rare, en fait, d'avoir une certaine gratuité concernant le streaming. Moi, j'ai envie de dire, ce qui serait vraiment dramatique, c'est de faire payer les gens pour justement regarder un truc pareil, quoi. Moi, je trouve que c'est se foutre de la gueule du monde que de faire payer. Non, parce que voilà, il y a des artistes, moi, je trouve, qui sont peut-être amateurs ou voire dans la rue, qui auraient peut-être sur le papier donné 10 fois mieux que ce qu'on a vu à la télé, quoi. Moi, j'y étais vraiment.
Qu'est-ce que tu réponds à ça, Philippe, à l'heure actuelle, là, au propos de David? Qu'est-ce que ça t'évoque?
Bah, si, quelque part, on le sait que tout ce dessin animé était là que pour vendre les produits dérivés, hein. Donc quelque part, il faut pas le prendre comme une finalité en soi. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que le Blu-ray était de meilleure qualité, parce que des images que j'en ai reçues, ça n'a strictement rien à voir. Les comparatifs entre le streaming et le Blu-ray n'ont rien à voir. Vivement qu'il arrive en France, quoi.
Oui, il y a quelques plans qui restent moches.
Même dans Dragon Ball, il y a des plans moches. Même dans.
Là après, tu peux pas comparer Dragon Ball ou Fairy Tail parce que c'est. Je termine juste. Tu peux pas comparer là-dessus parce que ce sont des animes fleuves. C'est des animes. Enfin, Soul of Gold, c'est une saison. C'est un anime justement qui a eu 13 épisodes. Il y a pas de continuité à assurer. Ils n'ont pas 800 épisodes à faire comme Fairy Tail qui fait qu'à son 400e épisode. Idem pour Dragon Ball qu'on avait 340 à faire. Donc tu peux pas dire Dragon Ball c'était pas terrible parce que la Soul of God se pose pas dans le même principe que justement ces séries fleuves. Ils se posent comme les animés à l'heure actuelle. Ils devraient être comparés,
par exemple, à Naruto. Naruto, c'est pas forcément très bien dessiné.
Non, mais Naruto, c'est pareil. C'est un anime fleuve. Alors que c'est pas. Voilà, ça fait
4 ans. Quand même, il a beaucoup de saisons, il a beaucoup d'épisodes, Naruto.
Tu peux pas, et encore, je trouve Naruto, globalement, bien mieux réussi au niveau du dessin que Les Soul of God. Après, c'est pas le même budget, certes, mais tu peux pas comparer avec ces trucs-là, Philippe. Parce que, Dragon Ball, là, Fairy Tail, ou One Piece, ou tout ça, ce truc-là, c'est des trucs maintenant qui sont à 600, 500 épisodes. Donc fatalement, ça, ils en font un toutes les semaines et ça va carburer. Là, Soul of Gold, ils ont réfléchi en amont, ils savaient que 13 épisodes, et après ils feront peut-être une saison 2 l'an prochain ou dans 2 ans. Donc voilà, c'est l'excuse de dire ils n'avaient pas un travail à rendre rapidement, tu vois, les mecs.
Le problème n'est pas le chara-design de Motohashi, parce que Motohashi fait un chara-design qui est proche de celui de Shingo Araki, sans vraiment de
folie dans le dessin. En plus, c'était un épisode tous les 15 jours, en plus, donc voilà, donc il n'y a même voilà. Plus...
Et puis, c'est un chara-design assez simple, qui est quasiment devenu un standard maintenant, donc c'est pas un problème de chara design. Motohashi fait des très bons designs. Le problème c'est la production en elle-même qui fait qu'on a sur différents plans on n'a pas les mêmes tranches pour les personnages. Voilà, c'est ça le problème. C'est pas un problème de chara design.
Le plus soit.
Ouais, voilà, c'est ce que j'étais d'accord avec vous. Ils ont corrigé des trucs sur les Blu-ray. Après c'est pas, il y a des trucs qui sont beaucoup plus beaux, c'est vrai. Après il y a des trucs qui changent pas tellement. Voilà, il corrige ça sur l'édition Blu-ray, donc c'est bien. Donc c'est finalement ce problème de dessin mal fait, ça va être pas le gros souci de Soul of Gold. Ce sera surtout les autres points qu'on va aborder un peu plus tard.
Voilà. Mmh. D'accord, très bien. Sinon, parce que là on parle du dessin tout ça, mais qu'est-ce que vous avez pensé de la partie scénario? Tu vas commencer par toi, Ouv, le scénario justement de Soul of Gold.
Bah alors, ça va sûrement en faire hurler quelques-uns parmi vous, mais c'est la partie que j'ai préférée. Oui, alors attention, hein, je reconnais les incohérences. Hein. T'en feras la liste plus tard et tu auras tout à fait raison. Il y a deux trois trucs, Il y a deux trois trucs bancals, mais comme je disais, moi j'ai découvert la série donc de façon, comment dire, un petit peu avec la tête dégagée de tout préjugé, et j'ai vraiment aimé la première partie. J'ai adoré la première partie avec l'enquête, hein, c'est-à-dire les mecs qui se réveillent, qui savent pas ce qu'ils font là, où tous les poussent à affronter les guerriers divins, mais bon, comme ils se sont déjà fait empapaouter par Saga pendant 13 ans, justement parce qu'ils avaient oublié de réfléchir, ils se posent des questions. Le cahier des charges est rempli, on explore un petit peu les personnalités, on fait des combinaisons entre deux, entre chevaliers d'or pour voir un peu qui est pote avec qui l'est pas, pour les faire évoluer. Ils en font un peu, mais pas trop non plus, c'est-à-dire que ils ont pas filé un passé traumatique à tout le monde. Bon, ok, Camus, ça m'a pas gêné plus que ça, il en fallait un, ils ont mis Camus, bon. Mais j'ai aimé ça, j'ai vraiment aimé ce côté, tu vois, tu te souviens, on parlait d'Asgard, la série. Bon, ou même Poséidon, on s'est torché en deux épisodes, hein. L'ennemi apparaît, les mecs qui débarquent, et au deuxième épisode, les combats ont déjà commencé.
C'est quand même plus épique aussi. Bon,
c'est efficace, c'est sympa, mais là, si tu veux, il y avait ce côté, t'as une première introduction avec un guerrier divin contre Yoga, mais après, t'as vraiment un côté enquête, et ça m'a incroyablement plu. J'avais peur d'être déçu ensuite avec la montée des marches, mais là sur Yggdrasil. Et finalement, ça se passe vite, ça se passe bien. Il y a des twists. Alors oui, effectivement, les twists, comme tout twist, quand on commence à réfléchir un peu d'où ils viennent, ils sortent un peu nulle part.
Après, c'était évident que en 13 épisodes, et là je donne ton point de vue aussi, t'as 13 épisodes, t'as beaucoup de personnages, un scénario quand même assez dense. C'était, en plus, il faut faire du combat en même temps parce que c'est quand même une série de combats avant tout. C'est évident qu'il y allait forcément avoir des facilités de ce genre-là et donc des twists un peu tirés par les cheveux.
Voilà. Et pour conclure, moi ce que j'ai aimé, alors apparemment je suis le seul, j'ai aimé le fait que ça aille vite parce que s'il y a un truc que je supporte plus de nos jours, moi, quand j'étais jeune, ça bougeait les animes. C'était même pour ça qu'on préférait ça aux dessins animés français et américains, c'est que ça bougeait vraiment entre le générique de début et le générique de fin.
On était bêtes à l'époque, hein, quand même.
Ouais, il y a une période, ces 10 dernières années, où j'ai essayé de me mettre à des trucs comme One Piece et Naruto, et c'est bien simple. Je ne regardais pas un dessin animé, je regardais du PowerPoint. C'est-à-dire qu'il se passait rien. Il y avait que des défilements d'images, des mecs, c'était du Freezer contre Goku, mais pendant toute la série, c'est-à-dire qu'il y avait une action dans l'épisode et il se passait rien. Et là, avec Soul of Gold, malgré le manque de moyens, malgré ci, malgré ça, mine de rien, il se passait des trucs tout le temps. Après, c'était souvent à l'arrache, c'était pas toujours très subtil ni très fin, mais vraiment, il y a des gens qui disent, ouais, il aurait fallu 26 épisodes. Non, moi, je pense pas, en 26 épisodes, ils auraient raconté la même histoire, mais délayée. Et honnêtement, une série un peu fauchée comme celle-là, enfin pas fauchée, mais disons avec des moyens limités, autant que ça évite, autant que ça traîne pas, parce que sinon on aurait trop l'occasion effectivement de se dire, bon, de s'ennuyer ou de voir ce qui va pas. Donc oui, elle a des défauts, mais franchement, moi, j'ai vraiment aimé la suivre, quoi. À vous, les studios.
Est-ce que je vais répondre un petit peu. Moi, là-dessus, on est clair et net. C'est que autant moi, au niveau du dessin, le truc, j'ai rien à lui reprocher parce que production Toei, production un peu fauchée, c'était un peu, de toute façon, c'est complètement d'anime qui est là pour vendre des jouets, donc ils s'en sont jamais cachés. Le but de Steam, c'est uniquement qu'on ait un peu envie d'acheter des jouets à côté, donc c'était évident que ça allait pas être l'orgie, tout ça, visuel. Mais je m'attendais pas à être aussi déçu. De toute façon, j'avais clairement dit que j'étais intéressé dans la dernière émission qu'on avait faite, on parlait de ça. Dans le sens où je trouvais ça intéressant que ce soit les golds. Je comprends pourquoi on nous a mis les golds, c'est pour faire le même schéma que les bronzes, et qu'en plus, ils ne l'assument même pas. Enfin, ils te font les bronzes qui sont dépassés, mais en fin de compte, non, parce qu'ils ont leur armure divine qui sort, mais on sait pas d'où. Enfin, ils ont une armure divine qui est là en mode, à propos, je t'ai pas dit quoi, j'ai une armure, pourquoi? Parce que, raison scénaristique. Voilà. Donc, tout simplement, donc, moi, très déçu de ce point de vue-là, les personnages principaux, donc, en soi, Efina, Lifia, non, comment ça s'appelle, c'est Lifia,
j'aurais dit. Lifia.
Lifia, voilà. En soi, c'est n'importe quoi, ce perso. Je suis une servante, mais en fait, je suis comme il l'a. En fait, je suis la réincarnation d'Odin. Et en fait, je sais pas. Attention, elle disparaissait. Je trouve que les personnages sont plus une fonction que les personnages en eux-mêmes. Et encore une fois, 13 épisodes, c'était évident, ça ne pouvait pas en être autrement. Mais voilà, les God Warriors n'ont aucune personnalité, sont juste là pour se faire défoncer et c'est tout. En plus d'avoir un design vraiment extrêmement mauvais. Puis le boss de fin qui fait deux épisodes en mode. En mode méchant, genre, vous êtes trop faible, je suis mort.
3,5 à peu près.
Voilà, donc un petit peu moi vraiment très très déçu scénaristiquement, en plus pas d'émotion dans les combats, je trouve pas d'émotion, pas d'épicness, les musiques, c'est des vraies musiques d'ascenseur, donc moi très très déçu. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à Ouv et à moi là comme ça Philippe?
Ah, oh, c'est quand même pas de l'ascenseur, faut pas exagérer quand même.
Ah, les musiques
quoi. Non, ah, les musiques sont quand même pas trop mal, si c'est vrai que c'est pas c'est des... on n'est pas transcendé par
non,
la
mais
musique.
Tout simplement, cite-moi une
musique d'ambiance hein,
mais cite-moi une.
Bah, Pegasus, déjà.
Ouais. Non, cite-moi une musique de Sound of Gold. Refais-la-moi avec ta bouche.
Non, mais les musiques... Ils ont voilà. Pas tout à fait le même chef d'orchestre non plus, quoi. Hein.
Bah, c'est pas une question de chef d'orchestre, Philippe, c'est une question...
Comme on disait tout à l'heure, il y avait Araki avant qui relevait largement le niveau. Là, on a plus tout à fait les mêmes personnes...
C'est pas une raison. Omega, ils ont fait ça très bien. Ils ont pris des musiques, ils les ont réorchestrées. Et voilà, et ça passe.
Ils ont voulu faire différent.
C'est une connerie. Voilà, on est d'accord.
Peut-être, oui, sans doute. Hein. Déjà, ils ont fait des résumés par rapport à Asgard parce que c'était beaucoup plus rapide pour que tous les fans comprennent où est-ce qu'on était. Mais même au niveau scénaristique, moi personnellement, les 5-6 premiers épisodes, même s'il y avait les combats dedans. Hein, qui était très intéressant. Ils étaient, voilà, il y avait pas. C'est un peu comme dans le sanctuaire, quoi. Il y a vraiment entendu arriver dans la Yggdrasil pour que l'action démarre vraiment, quoi. Hein, que tout le monde soit à sa place, quoi.
Qu'est-ce que tu réponds à ça, David ?
Par rapport à quoi ? Par rapport à la musique ? Par rapport au scénario ? Par rapport à quoi ?
Par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Là.
Bah déjà, il y a quelqu'un, je sais plus, j'ai oublié le prénom ou le nom. Qui a carrément parlé du scénario en disant que ça manquait de panache, ça manquait de peps, ça manquait de beaucoup de choses. C'est qui ?
C'est sûrement Pedro.
Eh ben, moi je partage complètement son avis. On peut pas, comment dire, là il y avait quand même quelques épisodes en fait, et moi je pense quand même que quand on a que quelques épisodes à faire, on s'applique, on vend... désolé mais on vend pas de la merde, on vend pas de la merde aux gens, on se fout pas de leur gueule.
Je pense que malheureusement ce qu'ils ont cherché à vendre c'est les figurines avant tout, ce qu'ils veulent vendre avec cet anime c'est ça, et en soi l'anime bah, c'est juste à mon avis une valeur ajoutée. On devrait plus parler des figurines en elles-mêmes que de l'anime.
Mais même si t'essayes de, regarde, tout à l'heure j'entendais parler, comparer par exemple ce qui s'est passé par rapport à, comme enfin je sais plus quel anime, ou je sais pas si c'est celui-là ou quel anime, par rapport en fait à un combat entre Goku et Freezer, mais pendant Goku, même si ça durait qu'il y avait plusieurs épisodes, mais ils se foutaient sur la gueule. Là maintenant on se retrouve
tu regardes l'anime maintenant de DBZ, tu trouves que ça prend du temps. Hein.
Tu parles tout le temps, les mecs.
Non, mais maintenant, tu regardes les combats de Freezer et tout, machin, je veux dire, les trois quarts des gens. Pourtant, moi, je suis un gros fan de la saison de Cell. Ben, les trois quarts des gens, quand ils me parlent des saisons de DBZ, c'est Freezer qui adorent. Maintenant, parce que c'était la plus terrifiante. Mais après, concernant la longévité des combats et tout, moi, je trouve que quand même, ils savaient bien gérer au niveau du timing, au niveau de ce qui devait se passer dans les épisodes. Là, On a une passivité, mais comme pas deux.
Je suis obligé de t'interrompre. Non, honnêtement, non. Si pour toi, dans Soul of Gold, c'est plus lent que les Dragon Ball 80, c'est faux.
Mais bien sûr que si.
Non.
Mais bien sûr que si. Regarde la Lifion.
Exactement. C'est la même. Comme pour Senseiya, comme pour Okutonoken, comme pour DBZ, les combats étaient d'une mollesse et d'une c'était des combats de terrain, de tétraplégique.
Je crois qu'Okutonoken, on n'a pas dû voir les mêmes trucs.
Okutonoken, alors là, on peut en parler, on a revu le
coffret. À revoir, l'anime est quand même vachement lent.
L'anime est quand même ultra lent. Hein.
Mais
vraiment,
il met du temps à se
faire. Attention, il y a une différence. Il y a une différence entre rapidité d'animation et rythme global. Les épisodes Goku contre Freezer... Ils étaient pas lents quand les personnages bougeaient. Simplement, t'attendais 20 minutes qu'ils bougent 2 minutes.
Voilà, c'est ça.
Oui, c'était ça, voilà.
Voilà. Et ça, c'est ça qui me gêne. Ça, on l'a pas eu dans Soul of Gold. C'est-à-dire qu'il se passait tout le temps quelque chose. Alors, effectivement, quand il se passait quelque chose, ça bougeait. Peut-être pas de façon fantastique. Moi, j'ai préféré ce rythme, qui bougeait tout le temps à des plages de rien pour avoir pendant une minute un truc qui déchire, quoi.
Il y a maintenant une nouvelle façon de faire des animés. Par exemple, t'as plein de shonen qui sortent quand tu dois sortir. C'est par exemple les IQ, les Kuroko, les Nanatsu no Taizai, tout ça.
Exactement.
Maintenant, justement, les studios ne font plus, comme ils faisaient pour Naruto ou One Piece, tout ça. Ils font plus des séries qui durent 200 épisodes. Ils font des saisons une fois par an, t'as 26 épisodes qui sortent, et ils ont une bonne animation, un bon rythme, il n'y a pas de filler. Et en 26 épisodes, et ben tu peux apporter de l'animation, apporter un peu de contenu en plus, mais tu restes fidèle au manga. Et ça, je suis désolé, il y a qu'à voir les Dragon Ball Kai. Dragon Ball Kai, ils enlevaient toute la merde qu'il y avait dans DBZ, ça passe nickel. DBK, c'est un plaisir à regarder, vraiment.
Non. Mais non, ça va pas ou quoi?
Mais non, Kai,
quand tu regardes les musiques, les doublages, les voix, ils ont changé, etc. Pourtant, regarde, et en plus,
il n'y a aucune voix qui a changé pour Kai, mec.
Regarde les voix debout, les voix de.
Mais tu parles de. Tu peux sûr que non,
c'est. Même si les voix ont changé, de toute façon, elles sont bonnes, les voix.
Mais tu parles de quelle voix là? Tu parles des voix françaises ou
japonaises? Ouais, remettre le doubleur de Kaio.
Mais même en japonais, tu regardes les musiques et tout, ça n'a plus rien à voir.
Les musiques restent de bonne qualité. Ils ont enlevé les fillers, toutes les parties qui assemblent, ils ont juste laissé les combats et des scènes marrantes.
Pour en revenir en fait à ce dont on parlait, à savoir Soul of Gold, c'est juste pour dire, même quand tu regardes les animes, avant les musiques étaient travaillées, on avait du Seiji Yokohama, c'était magnifique, on avait des génériques, des openings, que ce soit les openings, les endings, c'était bien travaillé. Il y avait un travail vraiment professionnel, que ce soit sur le design, que ce soit sur le scénar, que ce soit sur les musiques, que ce soit sur tout. Tout était de A à Z impeccable. Là, on est tombé sur carrément des musiques Yula Hoop, quoi. Excusez-moi, des musiques que tu peux mettre à la Gay Pride, quoi, à la Tata Yo-Yo. Hein? Franchement, parce que moi, ça m'a bien fait rire. Rien que l'introduction, qui est pourtant, elle n'a rien à voir avec le Pegasus Fantasy de l'époque. Hein. Moi, ça m'a bien fait rire.
Hein. C'est Soldier Dream, le.
L'opening est très bien.
Mais ça vaut pas la version de Kageyama.
Il est très bien, Soldier Dream de version, parce que c'est les mêmes mecs qui ont fait l'opening 2 de Omega, et c'est le meilleur opening, celui de l'opening 2 de Omega. Donc là-dessus, moi je trouve que l'opening est une franche réussite.
Mais non, il est pourri. Même si dans un opening, on le sait très bien, il faut mettre le budget d'un épisode. Mais là, franchement, c'était foutage de gueule.
Non, mais après, voilà, je parle de la musique, mais l'animation de l'opening était ridicule en soi. Hein. C'est plan fixe.
La musique, la nana qui parle. Non, sérieux, non, c'est. Non,
là,
c'est...
Là, 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 ça fait pas ça dans l'opening, mec.
C'est Pegasus Fantasy Omega. Ça.
Ah putain, c'est Soldier Dream chanté par c'est Kageyama, c'est ça? Ouais.
Oui,
c'est Kageyama. Soldier Dream chanté par Kageyama. Moi, j'étais il y a 2 ans à son concert à la Cartooniste de Nice. Et là, Soldier Dream, comme j'ai entendu au générique, ça faisait rire. Hein.
Ah mais passons, personne ne chante mieux que lui, Soldier Dream. Hein,
c'est lui qui. On part à l'autre côté. T'es en train de comparer The Big Boss avec les autres. Ou vraiment, il faut aussi se rendre compte que le mec peut pas tout chanter et que des fois, il doit laisser la main. Bref, Majo, qu'est-ce que tu penses toi du scénario de Soul of Gold? Qu'est-ce que t'as à raconter sur ce? Est-ce que tu peux jeter un truc sur ce qu'on vient de dire?
Alors oui, mais pour moi, l'excuse des 13 épisodes qu'on n'a pas le temps, etc., c'est pas justifié parce que Poséidon, ça fait 15 épisodes. Tu tiens un rythme qui est potable, qui est vraiment
épisodes dans Poséidon.
C'est 15 épisodes.
Oui, il a raison. Oui.
C'est 15 épisodes Poséidon et t'as un rythme qui tient la route du début à la fin.
Mais le scénario est tout le scénario est pourri.
Oui, on s'en fout, mais les combats sont bons. Les combats sont bons. On est bien d'accord.
Oui, enfin
moins bons que ceux d'Asgard.
C'est un autre
débat.
Je trouve que Poséidon, c'est effectivement en termes de rythme. Même si les combats et les adversaires sont pas toujours super fouillés, ça tourne tout seul effectivement.
Oui, c'est tenu. Mais après
dans l'arc Poséidon, il y a pas les méchants sont pas introduits. Mais je veux dire, il dit bonjour, je suis méchant, il se fait tuer. C'est pas pour moi, c'est pas une réussite l'arc Poséidon vraiment. Hein.
Oui, non, c'est déjà mieux que Soul of Gold qui n'a pas de combat épique.
Bah pour le coup, Soul of Gold.
D'accord. Et en plus, le problème de démarrer sur une partie enquête au début, ça réduit le temps pour les combats. Du coup, t'as encore moins de temps pour vivre
mais après,
les combats
sont plus rapides. Et ça, c'est ce que disait Ouv. Étant donné qu'on gagne du temps en fait sur la préparation des combats, il y a aucun combat qui dure trop longtemps. Et c'est quelque chose que j'ai apprécié. C'est ok, les combats sont pas toujours très bien, très cool, mais au moins on perd pas 2 heures dessus. C'est pas mal non plus, honnêtement.
T'as pas d'épisme aussi dans ces combats-là?
Non, on perd pas 2 heures, on gagne une demi-heure. Tu vois pas le frère de l'autre là, de je sais plus qui, de si, il y a certains épisodes. Enfin bref, je vais pas spoiler, mais en gros.
Ah, vas-y, tout le monde a vu, mec. Hein,
En gros, En gros, t'as des God Warriors, ils se font torcher la gueule sur 30 minutes. Alors que bon, tu regardes, par exemple, on parlait de Poséidon, ben mine de rien, au niveau du scénario, quand tu vois Isaac de Kraken, il y a une histoire par rapport à Isaac de Kraken.
Oui, c'est le seul
qui a une histoire.
C'est le seul avec canon de développement.
Oui, mais vaut mieux un seul que rien du tout, cher ami.
Bah oui. Là, pour te dire, dans Soul of Gold, bah c'est la même délire. T'as le mec, t'as le frère justement de Siegfried, et le mec, hein, le pote de yoga. Si jamais on s'arrête que là-dessus, à ce moment-là, c'est la même chose.
Ça tient pas debout
aussi pour.
Même le combat contre Sagat, tu t'éprouves pas d'émotion sur ce combat. Le mec, il arrive, le défonce.
Je trouve que je sais pas si c'est l'effet nostalgie, mais il y a beaucoup de gens qui reprochent à Soul of Gold des choses qui étaient déjà là à la base. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent les personnages sont trop fouillés et pas assez. Il faut savoir, c'est l'un ou c'est l'autre. Il y a des personnages, on retrouve le fait que Camus ait retrouvé un ancien pote. Ça l'a déjà fait avant. On a un personnage, bon, j'ai oublié celui-là, qui est l'adversaire de Shaka, là, qui a un passé. Il a un passé. Bon, il a ses vraies séquences flashback avec sa jeunesse, son adolescence, son âge adulte, aujourd'hui. Tout le monde n'est pas développé, tout le monde n'a pas besoin de l'être. Par exemple, Sigmund, qui est le frère de Siegfried, bon, on sait que c'est le frère, ça suffit, quoi. Il n'y a pas besoin de refaire des flashbacks sans arrêt.
Tu as complètement raison, sachant que ces personnes après qui critiquent ça sont des personnes qui trouvent complètement logique que les chevaliers d'argent, qui sont censés quand même se font défoncer, alors que des fois, les mecs, on ne sait même pas comment ils s'appellent. C'est, voilà. Le mec meurt, non mais arrête de me faire croire que les chevaliers d'argent sont développés ou n'importe quoi.
Ah, t'as Misty du lézard. Ah.
Et qu'est-ce qu'on sait, le Messie du Lézard?
Il est français.
Il est français, voilà. Et c'est
Aphrodite en dessin animé.
C'est Aphrodite avec des cheveux blonds. Ah, super!
Non, mais on reprochait à la partie Poséidon qu'elle n'a pas de background parce que la partie Asgard en avait.
Oui.
Voilà. Mais c'est pas le gros problème de Soul of Gold aussi. Soul of Gold, le problème, c'est que t'as pas de combat épique comparé à Poséidon où t'as des très bons combats.
C'est vrai.
Moi, Pedro, je lui demande les combats qu'il a. De lesquels il se souvient dans la partie Poséidon, il va pratiquement tous les citer parce qu'on s'en souvient, on sait qu'il s'est passé des trucs.
D'ailleurs, c'est un bien personnage qui est cool dans la partie Poséidon, c'est Krishna de Chrysaor.
Non, mais c'est vrai, il est sympa. Hein.
Mais non, parce qu'en fait, Krishna dans le jeu Soldier Sue, ils l'ont vachement bien retranscrit. Mec, il se bat, il a la main qui est ouverte devant lui, et on dirait qu'il mesure un truc avec ses deux doigts devant. Mec, il a tellement l'air con. Il fait genre, mec, il est tout petit comme ça, et il a deux doigts devant lui comme ça. Bon, reste, si vous connaissez, vous savez pas, oui, là, ça va pas vous faire rire, mais moi, ça me fait rigoler.
Oui, bah oui, mais de toute façon, c'est parce
qu'il y en a trop d'entre nous qui en ont une petite comme ça, et
il a été
empêché de le prendre pour nous.
Ne mélangez pas, parce que dans le livret, c'est marqué qu'il est né au Sri Lanka. Et moi, je suis né au Sri Lanka, les gars.
C'est en Inde.
Attention, c'est pas l'Afrique, hein. Attention les mecs. C'est la géographie. Hein. Là, tout à l'heure, on parlait d'univers intérieur-extérieur, là, attention.
Non, mais les vrais fans savent qu'il est indien. Hein.
Oui.
Oui, après, bon, je te rassure.
Non, mais on se moque de lui, parce que c'est un peu la seule personne de couleur dans le manga. Mais...
La question,
non, c'est pas la seule personne de couleur, c'est la seule personne de couleur qui ne ressemble pas à un japonais.
Le truc, c'est que.
Mais pourtant, il parle japonais, hein.
Eh les gars, des coupes de cheveux comme ça, vous en verrez jamais au Sri Lanka, je vous rassure.
Avec les cheveux blancs, surtout.
J'ai pas peur Colombo, j'en ai pas vu.
Non, mais c'est Ichi, enfin, Krishna, c'est Ichi avec un visage un peu plus prononcé, et c'est tout, et un soft color. C'est tout simplement.
C'est ce que je disais pour revenir, les combats, tu t'en souviens d'un Poséidon.
Si on doit vraiment comparer Soul of Gold avec une partie, il faut comparer Soul of Gold avec la partie Asgard originale. Et là, c'est vrai qu'il y a la partie Asgard originale.
Et là, je la comparais parce qu'il n'y avait que 15 épisodes.
Autant comparable, ce qui est vraiment comparable, c'est la partie originale d'Asgard. Elle prend Soul of Gold, elle lui écarte les jambes, elle la met contre la table et elle lui apprend la soumission, là.
Oui.
Voilà, quoi. Il y a des personnages travaillés, des musiques. Bon, après, voilà, c'est de l'époque, on va pas revenir dessus. Des combats fantastiques, le combat de Ikki, tout ça contre Siegfried. Mais ça défonce. Il y a beaucoup d'animations, ça part dans tous les sens. Ils se mettent des coups de poing, coups de pied, ça virevolte et tout ça. C'était vachement bien.
Mais là, je comparais à Poséidon parce qu'il y avait moins d'épisodes. Et de toute façon, c'est même pas la peine d'en comparer comparer à partie Asgard. Elle vaut même pas la partie Poséidon.
Mais déjà la partie Asgard, si tu regardes même, enfin bon, je vais revenir sur le design, hein, mais tu regardes par exemple le seul épisode qui est vraiment beau dans Asgard, c'est le 74 quand t'as Cid de Mizar qui arrive en fait au château, qui veut trancher la tête d'Athéna et que là après il y a une bagarre entre Seiya et Cid de Mizar. C'est le seul épisode en plus qui a raqué, qui est vraiment très beau.
À partir du deuxième épisode jusqu'à Mime, la partie Asgard, on s'ennuie. Thor, moi je l'ai revu récemment, Thor, on s'ennuie. Fenrir, on s'ennuie. Hagen, on est dans la cuisine en train de se faire un milkshake et c'est seul à partir de Mime.
Il n'a pas tout à fait tort. C'est vrai que c'est Mime et Bud.
Ah,
et Bud
c'est ouais. Ils jouent les psychologues, mais c'est parce qu'ils sont déjà raconte-moi ton enfance et ils font ok, je vais te raconter ma vie.
Bah, Mime, non, moi, c'est mon combat préféré. Hein.
C'est des personnages torturés qui ont des problèmes. Non, là où la partie Asgard était intéressante, c'est qu'en fait, ils affrontaient des gars qui étaient comme eux. C'est en soi les gars.
Le problème de Thor, c'est que les techniques de combat sont ridicules. C'est à d'un côté, c'est 10 fois le météore contre 10 fois l'espèce de comète de Thor. Il se passe rien en dehors des flashbacks. Pour Fenrir, c'est pareil. Les combats, ils se passent rien en dehors des flashbacks. Ils se foutent des coups sur la gueule et c'est tout. Ça dure 2 épisodes de trop. Et pour Hagen contre bon, Hagen, on s'emmerde parce que c'est censé être un triangle amoureux, mais comme c'est pour les enfants, on s'en est pas un. Et en plus, on sait très bien comment ça va se finir, puisque l'autre, il atteint pas le zéro absolu. On sait que ça se finira avec Yoga qui lui foutra un zéro absolu. Non, les 3 premiers combats, on s'ennuie vraiment. Et je dis ça parce que j'étais comme toi, j'avais le côté nostalgie, je l'ai revu récemment. Et par contre, à partir de Mime, ça fonctionne en termes de rythme, de personnages, de techniques. Mime a des techniques. Après, les techniques sont intéressantes, elles sont riches.
Oui, mais tu parles de triangle amoureux, mais regarde, ce triangle, on le voit avec Camus, l'autre God Warrior et Lifia, là. C'est la même chose qui se reproduit. La différence, c'est quoi?
C'est que. Aiolios, Lifia et.
Excusez-moi, ouais, Aiolia, Lifia et je sais plus qui. Mais c'est juste pour te dire que, mine de rien, quand tu compares, tu peux pas comparer, en fait, c'est comme, je sais pas comment te dire, c'est comme comparer, en fait, ce qui était dans les années 80-90, un Saint-Emilion grand cru classé avec la villageoise, quoi. Tu peux pas comparer. Moi, je trouve que c'est une copie, mais une mauvaise copie, voilà.
Moi, on peut comparer, il suffit de regarder les deux séries Asgard à la suite à la queue leu leu, hein. Tu te fais Asgard, dessin animé contre, et t'enchaînes sur Soul of Gold et tu peux voir si ça s'enchaîne ou si ça s'enchaîne pas. Moi, personnellement, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien. Maintenant, en ce qui concerne le ressenti, le truc et tout, c'est quand même dur. On est tous des grands nostalgiques. On a découvert ça quand on était enfant. On sait tous que la meilleure bouffe et les meilleurs personnages et les meilleures séries télé, c'est celles qu'on a découvert enfant. C'est quand même dur de faire la part de la nostalgie. Moi, j'ai réussi à regarder Soul of Gold, on va dire, avec mon âme de gamin de 12 ans. J'ai pas été écœuré, quoi. J'ai trouvé ça franchement fun.
Asgard, la partie Asgard, je l'ai revu il y a 2 ans. Dernière fois. Là, j'attends 2 mois pour la sortie Blu-ray.
Oui, c'est ça.
Moi, le triptyque débat, combat, flashback, moi, ça m'allait bien, hein, dans Asgard. Moi,
j'avais envie. Mais surtout parce que, comme je disais, c'est ce qu'ils ont pas pu faire dans Soul of Gold, parce que beaucoup de temps. Mais c'est aussi de créer un parallèle entre les bronzes et les ennemis qu'ils affrontent. De la même façon que ce qu'ils ont fait avec les golds. Qu'est-ce qui était terrible quand ils affrontaient les golds dans la partie sanctuaire? C'est concrètement, ils ont les mêmes objectifs. Les mecs, ils protègent la même divinité. Pour leur but, tous les deux, c'est de protéger Athéna. T'as le bronze qui protège Athéna et le gold qui croit protéger Athéna. Et c'est de là d'où vient ce côté un peu gâché. Tu dis putain, vous battez pour la même chose, les gars. Et là, c'est le même principe. Ils se battent parce qu'ils ont tous les deux une vision différente. Chacun protège sa déesse parce que chacun pense qu'elle a raison. C'est des fanatiques religieux qui se mettent sur la gueule à coups de bombe et à coups de Et du coup, ça marche bien. Justement, Asgard, parce que les personnages sont détaillés, ils sont riches, ils sont intéressants. Alors après, peut-être pas tous, parce qu'ils sont 7. Mais par exemple, voilà, comme tu dis, Mime est intéressant, Alberic aussi, les deux frères Mime et Bud qui font un pari entre Ikki et Shan, c'est intéressant. Siegfried qui est très puissant également, enfin voilà. Donc c'est pas forcément peut-être que, genre oui, les combats, parce qu'en soit les combats, bah, ils se mettent sur la gold, c'est comme sur les golds, c'est pas plus chiant que les golds. Plus chiant que c'est là qu'il se met tout le combat à terre, il met 2 patates à Aiolia, voilà, il a gagné le combat.
Ils ont refait la même chose avec l'histoire des frères, avec Saga qui s'occupe du frère de Siegfried, etc. C'est un peu, on revient toujours dans l'histoire de l'aspect fraternel et
non,
tout.
Non, mais de toute façon, que, après, je pense que c'est aussi pour faire, pour à mon avis, rester dans le parallélisme qu'a fait Kurumada. Kurumada, il te refait le méchant de Poseidon City, c'est encore canon. Il dit putain, tu vas arrêter de te mettre tes jumeaux partout là.
Ah non, mais Kurumada tourne en rond. Mais non, mais même si j'ai aimé la série, t'as fait un bon parallèle par exemple entre Sid et Bud et Sigmund contre Saga. C'est vrai, par exemple, qu'il y a plus d'émotions dans l'ancienne Asgard. Quand tu vois Sigmund contre Saga et que tu vois le fantôme du frère qui hoche de la tête de façon très, très molle, il y a effectivement. Mais alors maintenant, est-ce que c'est une question de budget? Est-ce que c'est une question de savoir-faire? Parce que ce sont pas les mêmes. Il y a quand même 35 ans de différence entre les deux séries, ou 30 ans. Donc c'est pas la même équipe, hein. J'ai pas tellement envie de rentrer dans l'aspect technique, mais moi je pense que si tu veux, c'est des gens d'une autre époque qui font la série aujourd'hui. Donc forcément, t'as un ressenti différent, t'as des approches différentes, tout est différent. Et donc ça se ressent, mais bon, après on est dans le subjectif, mais je refuse de dire que Soul of Gold est vraiment mauvais. C'est ni fantastique ni mauvais. Moi j'ai trouvé que ça tenait la route.
Le problème du combat avec Sigmund, c'est déjà que t'as l'impression que le flashback, c'est le minimum syndical. Alors tu vois que dans la partie Asgard, ils essayaient de creuser un peu plus. Alors que
le combat, très épisode, c'est malheureux, oui. On s'en toujours arriver à ça.
Mais moi, limite, je m'en fous qu'il soit développé perso. Ce que je veux, c'est des combats intéressants, des combats.
Non, ce qu'ils auraient pu faire, c'est prendre le parti de la saga Poséidon, peu d'épisodes encore, oui. Mais justement, tu développes pas les personnages, t'en fais juste des méchants et
j'en ai parlé, histoire, hein, Poséidon.
Voilà. Bien sûr, mais voilà, mais je veux dire par là, c'est que je reprends ce que tu disais. Il y avait plusieurs versions de faire. Je trouve dommage que j'ai l'impression de voir beaucoup de gâchis. Il y avait tellement de moyens de rendre Soul of Gold excellentissime, sans pour autant avec beaucoup d'argent, simplement avec un bon scénario qui tenait la route. Et là, le scénario est quand même rempli d'incohérences entre des personnages.
Pour moi, le gros ratage de Soul of Gold, c'est le fait, et ça c'est un tort de la part des Japonais, c'est d'idéaliser les golds en croyant qu'ils sont imbattables. Les golds, il y avait juste, tu vois, en plus, ils ont été cons parce qu'ils se sont eux-mêmes créé les moyens de mettre les golds en difficulté, mais ils n'ont pas exploité. J'ai beaucoup aimé l'idée, par exemple, qu'un des god warriors utilise la population pour créer des saphirs qui permettent de booster les méchants. Très bien, dans ce cas-là, faites-en vraiment chier les golds pour les humaniser. Sauf que non, malgré ce boost-là, finalement, il n'y aurait pas eu de boost, ça aurait été pareil. On voit les God Warriors de Soul of Gold qui ont des armes. Alors, il faudra qu'on explique pourquoi les armes de la balance, elles permettent de tout casser, elles sont tellement puissantes qu'on n'a pas le droit de les utiliser. Et dès qu'un adversaire qui n'est pas un chevalier d'Athéna a une arme, ça revient à rien. Quand tu vois Saga qui arrête l'épée de Sigmund juste avec l'avant-bras, tu dis, bon, arrêtez les mecs, c'est une arme ou c'est pas une arme, quoi. Donc, ça, c'est effectivement, ça fait partie
après,
des
mouvements. Après, les armes dans CNCA, ça a toujours été un peu le what the fuck. On se rappelle tous du moment, c'est bonjour. Il n'y a que la balance qui peut avoir des armes. Oui, Sagittaire, Andromède, Persée.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, je sais pas, moi, pour le peu de scénarios que j'ai fait, moi, sur mes fans BD, le principe que j'ai toujours, c'est il faut que les personnages principaux aient des difficultés à vaincre, tu vois. Il faut un défi. Or, effectivement, là où je pense qu'ils ont franchement un peu foiré sur Soul of Gold, c'est qu'ils avaient les moyens, mais ne l'ont pas fait, de mettre les golds en difficulté. Et c'est intéressant pour tout le monde. Toi, en tant que spectateur, tu veux avoir peur pour le héros. Il faut que le héros se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'il bloque? Pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas?
Je vais rebondir sur ce que tu dis justement à Ouv, parce qu'on dit justement, oui, de les mettre en difficulté, d'accord. Donc, les golds arrivent à Asgard, ils sont en difficulté, sauf que là, Deus Ex Machina leur tombe dessus, ils sont équipés donc, du principal argument de vente de Soul of Gold, les God Claws, cette armure divine. Alors, rapidement, est-ce que ces armures divines vous ont plu, Philippe?
Ah, bah, tout à fait. Mais bon, le problème, c'est qu'elles ressemblaient un peu trop à Omega, par certains traits. Et bon, c'était un peu de la redite, quoi. Donc, c'était un peu dommage. Sinon, se bagarrer avec des armures aussi conséquentes, je pense que ça ne doit pas être tout à fait évident.
Je sais pas comment fait Aldébaran pour se battre. Je sais pas comment il fait.
C'est vrai qu'Aldébaran, je pense que c'est la moins bien faite. Après, moi, j'adore celle de Aeolia.
C'est tauro-ilé.
Voilà. Et voilà, quoi. Mais sinon, le principe de divin est quand même pas mal. Bon, ben, c'est sûr que c'est clair que c'était pour vendre des figurines, hein, comme d'habitude. C'est quand même une petite plus-value par rapport à certains dessins animés, quoi.
Ah, bah, voilà. c'est pas pour vendre des figurines. Ils ont fait la gamme de figurines et après ils ont fait l'anime, quoi. Donc, c'est même pas.
Ah, voilà. Oui, mais c'est pour pouvoir vendre une nouvelle collection de figurines qu'ils ont fait. qu'ils ont fait des glosses
qui sont d'ailleurs pas vraiment des masses réussies, hein. J'ai vu un pote là qui par Skype qui lui collectionne pas mal de figurines. Il m'a montré un peu en photo le lion et le BD qu'il a acheté. Putain, il rend pas génial, hein, vraiment. Je suis vraiment pas fan du tout. Ça rend pas terrible, vraiment. Ouais.
Bah, on est regardé dans la vitrine de Japan Expo.
Oui, mais c'est pas les mêmes versions en fait. Eux, les versions Japan Expo, c'était pas les mêmes corps déjà. Et surtout, le problème en fait, c'est qu'au niveau du montage et de la fixation, les ailes tiennent assez peu. Il y a beaucoup de jeux entre les jambières, par exemple. Du coup, t'es obligé de monter.
Si ça tenait debout aussi.
Ça tient pas debout et t'es obligé de monter toutes tes pièces au maximum. Du coup, t'as au niveau des pieds et du bas de la jambière, t'as souvent un écart et ça fait très très moche. Après, c'était une petite parenthèse pour la figurine en alien. Majo, ton avis sur les God Claws?
Les God Claws, je les trouve très belles. Après ce que tu m'as dit sur les Meat Claws, ça me refroidit. Ça refroidit tout court.
Après, à part si vous avez un socle éventuellement ou un truc, voilà. Mais après, les socles, faut les acheter encore. Donc, moi, je pense que ça fait peut-être
pas le cas dans la première édition. Le socle était offert avec la God.
D'accord, je pense que ça m'étonnerait pas parce que comme le film ne tenait pas, ils ont dit tiens, on peut peut-être faire encore un peu plus d'argent
avant d'en être. Mais par contre, la future, celle qui devait arriver, je crois, courant février, je crois, lui, par contre, sera vendu séparément. Voilà.
C'est Masque de Mort en janvier.
Oui, mais ils vont faire une réédition d'Alludia.
Ah, ok. Voilà. Tant mieux, de toute façon, elle était en rupture.
Disons que le gros avantage de chez Bandai, c'est qu'ils ont arrivé quand même avant des clauses deux fois plus chères que la normale et les faire directement en rupture. À l'heure même qu'elles étaient en précommande.
C'est normal, ils font comme a fait Sony à l'époque avec la PSP ou la PS Vita, ils s'auto-limitent en fait sur les quantités, de sorte à saturer le marché et à augmenter justement les prix de vente et de.
J'ai connu ça chez Adidas pour les chaussures, ils font exprès de faire des sous-quantités parce que comme ça, au bout d'une semaine, ils peuvent dire putain, on a pété les commandes, ça a dépassé tous nos espoirs et du coup, les gens se rejettent dessus. C'est un artifice marketing qui permet de faire croire que tu as vendu comme un malade alors qu'en réalité t'as juste épuisé un petit stock.
En figurine à Lolia, je crois qu'il y a eu 4000 unités fabriquées pour le monde complet.
Je sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais moi l'impression que j'ai eue sur les figurines Soul of Gold, c'est que vu le buzz qu'ils ont fait avant, vu le fait qu'ils ont mis des photos partout pendant 6 mois, le fait qu'elles soient vendues aussi vite, à mon avis, c'est qu'ils ont clairement organisé la rareté du produit pour faire le buzz, quoi.
Bah, juste chez vous, il n'y aura pas pour tout le monde.
Qu'est-ce que tu en penses, ouf, toi, de ces armures divines?
Bah, moi, de celles que j'ai vues à la Japan Expo, je trouve vraiment que les photos leur rendent pas hommage. Pourtant, pour moi, la God Claw, c'est un peu comme le Super Saiyan, tu vois. Dans Dragon Ball, il disait, c'est les soldes de Super Saiyan. Pour moi, la God Claw, c'est le truc qui doit rester unique, qui théoriquement ne s'applique qu'aux héros. Donc le faire sur les golds, j'ai trouvé ça un peu facile, même si je comprends l'argument marketing. Ceci dit, une fois que celles que j'ai vues en vrai à la Japan Expo, il faut reconnaître qu'elles sont superbes et bien meilleures que sur les photos, à mon avis. Pour moi, elles en jettent à mort.
Parce que là, les photos récentes de ta machination, elles sont
belles, hein, en soi, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand je vous dis les défauts, c'est que c'est des défauts qu'on a quand on commence à collectionner un petit peu. C'est vrai que voilà, les ailes ne tiennent pas. Au niveau des jambières, il y a beaucoup d'écart entre différentes pièces. Et le corps qui est donné, c'est pas un corps EX, c'est un corps Miklos classique. Voilà.
Ah oui,
ouais, à la Japan, ils avaient des corps EX. Donc plus élancés.
C'est vendu EX, hein, normalement.
C'est pas des EX, non. C'est un corps spécial, je crois que c'est un corps, ce qu'ils appellent un G4. C'est le corps qu'ils ont fait justement après le corps des V4 10e anniversaire. C'est ce corps-là.
C'est vendu comme des EX.
C'est pas un corps EX, sûr et certain. C'est pas de l'avant, c'est pas de la mensonge, c'est que c'est un corps EX, à mon avis, adapté, mais c'est pas le corps EX, par exemple. Ouais. Tu compares le corps de Alolia EX et le corps de la EX du lion basique, tu vois, c'est pas le même. Clairement pas le même.
Revenir, moi, les armures, je les aime bien, j'aime surtout celle de Shaka. Celle de Masque de Mort aussi est pas mal, avec les pinces qui servent d'aile. Pas mal de chevaliers d'or, ça rend bien.
Je trouve que les ailes sur toutes les armures, c'est une preuve de mauvais goût absolu. Je trouve que les armures sont beaucoup trop chargées. Ils ont foutu des ailes partout, c'est horrible.
Vraiment, ah oui, mais c'est quelque part.
Sur celles des bronzes aussi, hein, c'était pareil.
Bah non, sur les bronzes, il y a une certaine logique. Que le Pégase des ailes, ok. Que Ike, que le Phoenix des ailes, ok. Que le Cygne des ailes, ok. Le Dragon, c'est pas vraiment des ailes, c'est plus des membranes, tout ça. Et que Andromède, il est une espèce de truc qui pend vers le côté. J'accepte.
Tout ça passe pas, même pas le lion, comme Shura, par exemple. Ça passe pas.
Qu'est-ce que le lion a des ailes?
Eh ben oui, on a eu dans la mythologie.
Si,
C'est pas, ouais, c'est des flammes, on sait pas trop. Mais...
Non, mais c'est ça. En fait, c'est ça justement que ça veut représenter. Et je trouve que ils ont, je trouve que de tout se mettre un gros truc énorme derrière, c'était pas le meilleur truc à faire. Alors, à faire
tu sais, le principe de la God Clause à la base, c'est que c'est justement oui, c'est super ça, c'est rococo, bizarre. Super chargé, que.
Ouais, non, mais c'est anobli. Ah,
là, on dirait des Transformers avec des ailes. Là,
excusez-moi. C'est ce moi, je les voilà. trouve très cohérente avec ce qui a été fait pour les bronzes. Hein.
C'est vraiment
une version ampoulée. Mmh.
Les bronzes, en fait, il y avait ce côté, enfin, assure encore une fois, mais juste que elles ont un côté, je vais pas dire classique, mais elles sont neutres. Il y a pas, elles fournissent pas de détails. Allez, c'est un plastron entier. Il a deux brassards, des jambières. Voilà, j'accepte. Mais comment tu veux que Adulia se batte avec son armure? Le mec a des épines, des pointes partout. Le mec, il bouge, il hoche la tête, il est mort parce que il a un putain de truc au niveau de son torse qui pointe vers le haut. Je te dis, c'est mes refs, ils ont, enfin. Des armures,
il a raison, hein. C'est comme le pingouin en Batman, hein. Le God Clause, là, il te met un coup de boule et il te crève un œil. C'est...
du coup, je trouve ça assez dommage parce que je trouve que ça casse un petit peu la crédibilité de l'armure. Ça n'a jamais été très crédible de voir des mecs se battre comme ça, mais les Golds, on pouvait y croire. Et là, j'ai eu l'impression qu'ils ont juste rajouté des épaulières par-ci par-là, ils ont rajouté plein de détails et ils ne sont pas dit est-ce que ça rend bien en fait. Et je trouve que les ailes, bah, pour tous, ça passe pas nickel. Question que ça passe bien. Bon, je trouve que moi, les plus réussies, c'est celle du verso. Celle du verso est bien réussie parce qu'elle ne change pas des masses, en fait. Elle reste dans la continuité. Ils n'ont pas rajouté beaucoup de détails. Et derrière, derrière ce n'est pas vraiment des ailes qu'il a. C'est le. Pas l'écharpe, vous savez.
C'est à la fois une écharpe et l'eau, quoi.
L'eau, je trouve que là-dessus, ça rend pas mal. Idem pour éventuellement. Pour. Comment ça s'appelle? Pour. Saga. Aphrodite. Parce que c'est une. Saga, en fait, c'est une aile de démon, une aile d'ange. J'arrive à comprendre le principe avec l'armure. Ouais, mais je trouve que pour les autres, bah non. Pourquoi le taureau il a des ailes?
C'est un vol d'albatros.
Les animaux fantastiques dans la mythologie, comme le bélier qui était celui de la toison d'or, avaient des ailes. Moi ça me choque pas plus que ça.
Non, je dis juste que je trouve ça bling bling et un peu bah, presque beau.
C'est sûr que ça change d'Odin hein, qui fait du surfeur d'argent. Hein, ça, c'est certain.
c'est la marque de fabrique des Godcloth, mais après il y a d'autres persos qui ont des ailes qui n'ont pas d'armure divine. Je prends par exemple les juges des enfers, en Radamante par exemple, on peut limite dire que c'est une God Clause.
Radamantis de la Wyverne, t'as jamais vu une Wyverne ou pas? C'est un putain de dragon, hein. Donc ça a des ailes. Hein.
Ouais, mais et si tu veux la transformer en armure divine, tu ferais comment?
Eh ben, tu auras plus de détails.
Encore plus de pique. Peut-être que le fait qu'Aldébaran il ait des ailes, ça vient du fait que, je sais pas, regarde, chez nous, tu vas dans la supérette, t'achètes du riz, la marque c'est Toro Ailé, je crois.
Ouais, il a vu du Red Bull, ouais. Red Bull donne des ailes!
Par exemple.
Encore une publicité mensongère.
Bon, bah écoutez, et toi, David, ton avis sur ces God Clause?
Bah, c'est un massacre, hein. Moi, je pense qu'ils se sont posé la question de savoir est-ce qu'on pourrait donner l'air le plus con possible au Gold? Pourrions-nous le faire? Eh ben oui, le pari est réussi.
Et le pire, c'est qu'il y en a qui en achètent, hein. J'ai ça comme
c'est
ça.
Mais ouais, mais voilà. Mais
non, mais ils sont réussis, les figurines.
Mais regarde, j'ai envie de te dire, c'est comme McDo. C'est tout le monde bouffe, c'est de la merde, mais est-ce que pour autant, est-ce qu'on devrait le classer 5 étoiles au Michelin? Non. Voilà. C'est
ça, désolé, la dernière fois que j'étais à McDo, c'était très bien.
Ouais, mais bon, t'as la chasse pour 20 balles, hein, excusez-moi.
Au passage, notons que dans le jeu Sensei Online, il y a les armures divines pour les chevaliers d'argent qui sont apparues.
C'est pas juste pour Orphée?
Si, pour Orphée. Après, je sais pas si c'est pareil pour les autres, mais.
Après, concernant les. Ces armures, je trouve que ouais, comme on disait tout à l'heure, c'est trop chargé. Tu te demandes si le type, quand il prend sa douche, il arrive à se laver sous les bras, quoi. Enfin,
voilà. Sa douche, il se met à poil déjà.
Ah, voilà. Non, mais sérieux, je veux dire, imagine avec une armure comme ça, tu peux même pas te gratter le cul, hein. C'est voilà. Bon courage, bon courage pour la démonter.
Hein. Surtout Aiolia, parce qu'il a une espèce de pic au niveau du truc là.
Oui, c'est ça. C'est Aiolia. Non, il y a aussi Shaka. Shaka, il a au niveau de ses jambières, il a des trucs. Il dit que le mec ne peut même plus ouvrir,
C'est qui t'as dit qui avait dit que c'était bling bling?
C'est moi.
Bah t'as raison, parce qu'on dirait un peu un défilé de chez Jean-Paul Gaultier, tu sais un peu. Et Shaka il sort là, tiens, oui vous avez vu, et voici Shaka de la Vierge, voilà, avec le truc mi-tem, mi-cui, mi-con, vas-y.
Ils ont pris leurs plus beaux atouts. Voilà, bah écoutez.
C'est terrible. Franchement, c'est terrible parce qu'en plus, c'est vrai, ces histoires d'ailes de partout, de voilà.
On va conclure. Donc voilà, donc en soi, est-ce qu'on vous recommande Soul of Gold? Si vous êtes vraiment, si vous êtes vraiment un gros fan de Saint Seiya, oui. D'autant que ça fait la jonction entre les Gold et entre la partie Hades et même pas, ça vaut qu'une jonction d'ailleurs, même pourquoi je dis ça, c'est on apprend qu'à la fin, c'est Poseidon qui a dit les Gold, donnez-moi vos armures, ok. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, si on suit la logique, ils auraient dû les Gold, les bronzes, avant les armures d'or, on aurait dû avoir armure divine.
Les armures d'or étant imbibées de sang divin, elles auraient pu aller directement d'elles-mêmes dans Hades. Les 12 en plus.
Ah oui, et puis surtout, c'était devenu divine à ce moment-là, les bronzes, en les récupérant, auraient dû avoir les armures divines.
Pourquoi
créer des incohérences comme ça? Putain, vous pouvez pas juste dire, voilà. Non, il aurait fallu, à mon avis.
Ah, mais les incohérences,
il aurait fallu faire une série qui se passait pas, moi, 2 ans après. Et voilà, je fais pas chier.
Je pense aussi qu'effectivement, ils auraient pu faire ça à une époque indéterminée. C'est-à-dire qu'on sait pas où sont Atseya et les autres. Et voilà quoi, de dire ils doivent être en train de combattre ailleurs, et puis on se pose pas la question de savoir où et quand c'est.
Ça se passe en combien de temps d'ailleurs sous Love Gold?
En beaucoup plus longtemps que le temps que les bronzes sont en enfer.
D'accord, parce que ils restent pas longtemps en enfer quand même, les bronzes. Ils restent
ça colle pas.
Non mais normalement c'est moins longtemps que avant qu'ils terminent leur combat face à Hades, je crois.
Le combat en Élysion, ça se passe pendant la durée du combat en Élysion.
Oui, voilà.
Et même le combat en Élysion, il ne dure pas une heure.
Même pas, c'est même pas le combat contre Élysion, jusqu'à ce que Thanatos détruit les armures d'or. Donc ça veut dire que c'est pendant que ça se passe pendant qu'ils vont à Élysion et qu'ils se font rosser par Thanatos. Donc,
ça fait l'équivalent de la moitié du combat de Thanatos.
Une demi-heure. Ah, super. Voilà. Pourquoi avoir.
Oui, mais quoi.
On va dire que comme à un moment ils sont en dehors du temps, le temps passe plus vite. Voilà.
Donc ça allez. Se déroule après qu'ils aient détruit les annonces, c'est pas possible. Ils sont détruits.
Bah oui, non mais c'est pas possible. Voilà. Donc on va dire que comme ils ont changé de dimension, le temps a été accéléré du côté des Gold. Voilà. On va dire
non
ça.
Mais là tu oublies un truc, c'est que c'est ce genre d'incohérence qui va pouvoir donner lieu à 10 000 fanfics pour expliquer pourquoi le temps est pas pareil des deux côtés.
Voilà. De toute façon, c'est très simple. Tout ce qui n'a pas été expliqué par Kurumada sera expliqué par les fans. Voilà. Des autres histoires. Donc voilà. Donc on termine donc sur Soul Eater Gold. On vous le recommande. Oui, vous êtes vraiment des gros fans. Si jamais vous êtes comme moi, vous adorez SNCA, regardez parce qu'il faut regarder. Au moins, ça vous fera bien rigoler. Au moins, ça aura de pas vous faire rire. Ou alors, attendez le Blu-ray. Ou attendez une version peut-être piratée du Blu-ray si un jour vous pouvez peut-être en trouver une, voilà. Peut-être, ça peut être aussi une solution. Par contre, n'achetez pas le Blu-ray parce que c'est une escroquerie totale.
Ah, mais c'est les prix du Japon, hein, Pedro.
Ouais, non, mais arrête. 30 euros les deux épisodes, c'est pas possible, mec. C'est pas...
Non, 40, non, pas 40 euros, 48 euros.
À 48 euros les deux épisodes, voilà, c'est fait 30. Ah, putain.
Alors, le premier, t'en as 3, hein. C'est...
On va aller faire le plein de gasoil.
Non, putain, ah, c'est. Est-ce que vous avez les. J'espère que ceux qui achètent le coffret Blu-ray, ils ont vérifié l'étanchéité de leur power rectum. Parce qu'à mon avis, il y a des risques de fissures. Faites attention. Voilà. Donc.
En gros, faites-le vous offrir.
Même pas, t'imagines. Viens, j'achète un coffret. Ah bon? Il y a quoi? Il y a 2 épisodes. Bah, c'est pas un coffret alors. C'est pas un coffret alors.
Ah oui, mais il y a des CD et de musique avec.
La musique de merde. Super.
Non, t'avais dit la musique d'ascenseur.
La musique d'ascenseur de merde. Je précise, il n'y a pas de problème.
Qu'est-ce que j'ai détesté ça avant quand ils te vendaient les coffrets l'intégrale et puis tu découvrais que c'était la moitié de l'intégrale.
Ça, c'est cool ça. C'est... Ah. Ils font ça tant.
Ah, mais peut-être qu'en France, il sera différent. Hein. On n'aura peut-être rien à voir avec le coffret japonais. Hein.
Bon, peut-être qu'on l'aura pas.
C'était notre avis sur Soul of Gold.
Voilà, c'était tout pour ce débat Soul of Gold. On va maintenant passer aux dernières parties de l'émission. Soldier Soul, le dernier jeu Saint Seiya, sorti le 25 septembre au Japon et en Europe.
Excellent jeu, sorti au même
moment au Japon en Europe, sur PS3 et PS4. Il était d'abord annoncé en avril, puis après jouable à Japan Expo, etc. Excellent jeu, oui, tout à fait. On y retrouve les bases de Brave Soldier, sorti il y a 2 ans. Lui-même un excellent jeu, hein.
Excellent jeu, Brave Soldier.
Alors, le jeu sortira sur Steam en novembre, la Master Race version, voilà, qui sortira normalement en novembre, parce qu'ils veulent la peaufiner. Le jeu connaît de mauvaises ventes au Japon, hein, c'est de pire en pire selon depuis les derniers épisodes. Il se vend davantage en Occident, avec des bonus de précommande, Athéna et Hades en OCE, en Original Color Edition. et un magazine Inside qui était offert à la précommande chez Micromania. Voilà. Donc je laissais d'abord la parole à Pedro qui va nous parler de cet excellent jeu qu'il a surkiffé, qu'il a gardé dans sa collection.
Ce jeu est un putain de cambriolage. C'est 70 boules pour ça, non, c'est pas possible. Donc achetez la version PS3, mais en fait non, parce que la version PS3 c'est de la grosse merde. Le jeu est lent, moche, c'est ralenti.
C'est le même jeu.
Non,
c'est 20€ de moins, mais je trouve voilà.
Une version moins bien, voilà. Moi j'ai acheté 70 boules, j'ai payé le prix fort. Et je suis bien fait enculer comme il faut, donc voilà. Moi, je veux que tout le monde se fasse enculer comme moi, donc non, Sanseiya. C'est Brave Soldier avec 1,5 de vitesse en plus. C'est un très mauvais jeu, avec un très mauvais scénario. Si vous êtes fan de Sanseiya, mais vous allez passer votre chemin, vous allez pleurer des larmes de sang. Ouais. Les musiques sont à putain de vomir. C'est encore pire que Soul of Gold, niveau musical, c'est pour dire.
C'est une musique d'ascenseur de base. Hein.
Le système de combat, mais aussi pauvre que l'argumentaire de Pac-Boy sur Hunter x Hunter, autant dire qu'on est quand même sur une base, on est quand même sur une base de pauvretude assez extrême.
Ah, c'est Pac-Boy qui a développé le jeu, vous savez pas?
Des cinématiques et des menus, mais de l'austérité complète. C'est du niveau de comment il s'appelle là, de Alain Juppé niveau austérité, c'est pour vous dire.
Il y a trop de temps de chargement entre les menus.
Alain Juppé, le bordelais sinistre, l'épouvantail à électeurs, c'est la même chose pour ce jeu, voilà. Donc non, c'est en plus une galerie avec plein de trucs à débloquer, à acheter, qui étaient déjà dans le jeu d'avant, qu'ils ont juste repris. Ça coûte une blinde, on se fait chier à faire des centaines de combats, mais le jeu quand même. Et ben il marche. Sur moi, il a marché. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer au jeu. Je le défonds parce que c'est une putain de grosse daube. Mais pourtant, la manette en main, on prend Saga, on fait Galaxy d'explosion, on roule sur la gueule des ennemis. Pff, la magie marche. Donc faites-le en occasion. Faites-le vous offrir. Ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre. C'est un mauvais jeu.
Tu veux pas, t'as déjà le
boulot. Là, t'es en train d'insulter les gens, en train de leur dire qu'ils savent pas allumer une PlayStation, appuyer sur On. Là.
Mais là, tout ça pour dire justement que c'est un très mauvais jeu, donc vous attendez pas à des étincelles.
T'es en train de dire que c'est un mauvais jeu réussi.
C'est un mauvais jeu, absolument. C'est un mauvais jeu réussi.
C'est le meilleur des mauvais jeux.
C'est le meilleur des mauvais jeux Sanseiya. Donc, il y a une lueur d'espoir en sens où, comme les HD, si jamais ils doivent continuer Sanseiya, ils peut-être se diront, bon, faut qu'on change la formule. Donc oui, changez la formule, faites un RPG Sanseiya, c'est comme ça qu'il faut faire. Sanseiya, c'est pas un jeu de baston. Les mecs n'ont pas de tétine dans Sanseiya, ils en ont que 3. On fait pas un jeu de baston avec Sanseiya, c'est pas possible. Donc voilà. Donc, changez la formule, faites quelque chose. Mais, il faut changer ça vite parce que là, c'est pas possible. Ah oui, et petite technique. Peut-être ce qui fait que le jeu je l'ai supporté, c'est que j'ai mis sur ma clé USB toutes les musiques de l'anime qui me plaisaient, et on peut les écouter à la place de la musique de merde du jeu. Donc forcément.
Ouais, c'est un plaisir de sortir les attaques Big Bang sur fond de ces musiques-là.
Quand tu te bats avec ça, que la musique Pegasus Fantasy arrive et que t'es en train de te faire battre, il se passe quelque chose. Voilà, c'est tout pour moi.
Alors concernant mon avis, alors ça va être plus ou moins la même chose que Pedro. Moi,
j'ai merci Majo donc pour ces
voilà. Donc un peu plus, j'ai essayé de faire un peu plus complet. Dans
ce serait bien plus facile si t'es tout le temps comme ça, Kamen.
Oui, c'est sûr. Hein. Le mieux la conclusion. Hein. Donc un système de combat dynamique, mais qui offre peu de possibilités.
Dynamique, donc, mec, non quoi. Enfin, non.
Pour non, un Sensei-A, c'est
oui, ah oui, d'accord.
Comparé
oui.
À Bref Soldier. Mais parce que tu réussis quand même à t'amuser, bizarrement, avec ce système de combat, même si c'est répétitif et qu'il a peu de possibilités. Durée de vie remplissage entre guillemets, tournoi de, par exemple le tournoi de la deuxième roue de la bataille d'or, c'est long et répétitif pour obtenir toutes les répliques. Article de la boutique trop cher.
J'ai pas trouvé que le passage que tu parles était répétitif parce que on peut jouer les personnages qu'on veut et on peut justement les personnaliser comme on a envie. Du coup, ouais. Moi c'est le mode de jeu où je me suis le plus amusé parce que c'est là où on peut jouer comme on a envie avec les personnages qu'on aime et comme on peut bien les upgrade, on peut littéralement fumer les mecs en face. C'est un, je pense, c'est un vrai plaisir. Donc là, je ne suis pas ton point de vue.
Bah, pour obtenir toutes les répliques, au bout d'un moment, c'est super long.
Moi, j'ai mis 50 heures, donc tu mettras 50 heures et tu arrêtes.
Je suis à 50 heures et je sais pas.
Arrête de jouer comme un pied aussi, hein, voilà. Okay. Arrête de jouer à Ratchet & Clank là, hein, t'auras deux mains.
Ratchet & Clank est mieux que ce jeu de merde. Hein.
Non, rien n'est mieux que Sensei.
D'accord, ok. Espèce de faux fan.
Absolument.
La boutique trop chère, donc qui veut qu'on fasse beaucoup de combats pour acheter les ce qu'il y a dans la boutique. Donc du coup, ce qui rallonge artificiellement la durée de vie. La première roue de la bataille d'or aussi, qui est super répétitif et qui te demande de faire 4 combats à la suite x 12.
C'est bon, t'as choisi que le jeu est répétitif, triple con, là, ouais. Hein?
Avec un fond de dialogue inintéressant. Hein.
Ouais, c'est répétitif.
Cinématique statique dans le mode scénario qui reflète la fainéantise des développeurs. Alors qu'ils avaient fait de belles dans les opus précédents, hein. Citons la bataille du sanctuaire et puis, même l'épisode PS2, le premier, là. T'avais des cinématiques, au moins. Pas comme là. Dans le mode histoire, légende du cosmos. Donc, impossibilité pour des non-connaisseurs de Essentia de découvrir de façon positive l'univers. En particulier, la partie Hades où on affronte pratiquement les mêmes personnages à répétition, dû principalement au manque de spectre parmi les persos jouables. Donc voilà, si au moins il y avait des cinématiques réussies, on l'aurait peut-être un minimum conseillé, mais c'est pas le cas, le mot scénario est inintéressant.
Ce que tu me dis, je me refais penser à quelque chose, c'est que s'il y a bien un point positif dans le jeu, son casting, il y a beaucoup de personnages.
Oui, le roster, ouais.
Très très gros roster, hein. Ça il faut pas oublier de le signaler. C'est il y a des Asgard, pas de Soul Gold, mais des Asgard originaux. Il y a tous les Gold, bien sûr, avec leur armure divine également. Les Gold, armure divine, qui ont une attaque supplémentaire par rapport à la version tenue classique, où ils ont une grosse attaque Big Bang, qui pour le coup, elle est très impressionnante. Donc voilà.
Il y a un beau roster, mais comme je le disais, pour la partie Hades, il manque des personnages, t'as que les 3 juges, et donc du coup, tu fais des combats répétitifs contre les mêmes persos pendant la partie Hades. On aurait bien voulu avoir des Valentines ou des Sylphides, je sais pas, des spectres un peu plus importants pour des combats quand même assez intéressants face aux protagonistes. Et c'est pas le cas, donc du coup la partie Hades c'est vraiment la partie à éviter. Il y a une mauvaise progression de la difficulté en raison de personnages plus forts que d'autres, hein. Quand tu tombes directement sur ton troisième combat face à Camus, tu te racontes moins bien.
C'est moi, Camus est un des personnages les plus puissants du jeu, enfin dans la tier list, hein, c'est pas compliqué, vous avez Sean, Saga, Camus, et vous allez avoir Sorrento, voilà, et Athena.
Moi j'ai mis Shura aussi et Radamant.
5 persos les plus forts du jeu, enfin ils sont, c'est pas qu'ils sont au-dessus des autres, c'est que au-dessus de ces personnages-là, c'est le soleil, quoi. Ils sont ultra pétés, mais c'est violent, quoi.
Il y a Shura et puis Radamant aussi, Radamant pas mal pété avec son Greatest Caution.
Il est sur le côté et il est parti. Non, Radamantis, il est pas très dur à battre, non. Il est beaucoup moins fort qu'un Saga ou un truc comme ça.
Après, le problème de ces persos-là, surtout Camus, c'est que tu vas te taper pendant la partie sanctuaire, pendant la partie Poséidon, pendant la partie Hades, pendant plusieurs combats. C'est le perso que tu le croises le plus souvent.
Et c'est le plus fort.
Oui, voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'une mauvaise progression de la difficulté et rajouter 10, 20, 30% d'attaque à un perso à chaque fois que tu évolues dans le scénario, ça ne suffit pas parce que les persos pétés restent complètement pétés par rapport aux autres.
Est-ce que t'as un petit peu joué en ligne, Majo?
Non, j'ai pas joué.
D'accord, garde-toi du mal, alors.
J'ai pas envie, de toute façon. Alors les graphismes sont aussi d'un autre âge, surtout les décors époque PS2, hein, c'est quasiment les mêmes, ils ont pas retouché on dirait. Le cel-shading sur les persos passe plutôt bien parce que c'est du cel-shading, ça passe toujours bien le cel-shading, c'est la solution de facilité pour avoir au minimum quelque chose de beau. Pas de cinématique d'introduction au début, alors que dans tous les épisodes de Sensei-A, le jeu, tu en avais eu, là t'en as pas. Enfin bon, c'est pas le plus important, mais voilà, il faut au moins qu'il y ait... Si le travail était pas fait sur une cinématique d'introduction, tu pouvais au moins le faire sur les cinématiques. Le seul plaisir reste d'admirer les ABB, donc les attaques Big Bang, avec sur fond de musique épique que tu rajoutes toi-même, parce que les musiques du jeu, c'est des musiques d'ascenseur. Le jeu, donc pas à 70€, même pas à 50 pour la version PS3.
Il y a un sacré racisme anti-ascenseur quand même dans cette émission. Hein.
Ah ouais, ça monte beaucoup, hein. Ça descend, ça monte.
Ça descend surtout.
Ouais, ça descend. Différence entre la version PS3 et PS4, c'est que t'as 30 FPS sur la version PS3 et 60 sur la version PS4, donc ça bouge un peu mieux. T'as 1080 un peu aussi sur la version PS4, les graphismes sont un peu plus affinés. Mais je pense que ça vaut pas la peine de payer 20€ de plus pour la version PS4. De toute façon, les deux versions sont trop chères. Donc, faudra peut-être attendre la supérieure version sur PC, mais encore, hein, de toute façon, la version PC, c'est la version dont les éditeurs se branlent le plus. Il suffit de voir celle avec Batman. Hein. Donc après, est-ce que le jeu de baston, c'est la solution? Ça, c'est un autre débat, mais je ne pense pas. j'aurais pu faire un RPG, un action RPG ou un RPG tout court. Ce serait plus approprié. Hein. Peut-être un espèce de Xenoverse, mais avec dans le mode Xenoverse, mais oui, c'est peut-être la solution qui collerait mieux, ou peut-être un RPG tour par tour, peut-être. Voilà. Et on termine par les sorties Saint Seiya de novembre et de décembre. Donc le 10 novembre, on viendra au chapitre 41 de l'épisode Assassin, et un chapitre toutes les semaines, normalement, si l'auteur ne fait pas de pause. Le 12 novembre, le tome 1 de l'épisode Assassin sort en France. Même jour, lorsqu'on va sa anecdote, chapitre 85, donc le chapitre 4 de All Twins Gaiden. 19 novembre, le chapitre 28 de Saint Yasho. Le 24 novembre, la Nick of X de Sorrento. Le 26 novembre, le DVD Blu-ray volume 5 de Soul of Gold, épisode 10 et 11. En décembre, le 4, le troisième coffret Blu-ray de Saint Seiya, épisode 74 à 114, Asgard Poséidon, en France. Le 8 décembre, le Scanvas tome 14, anecdote, en haut Japon. C'est le Bélier partie 2. Le 10 décembre, le Scanvas Chronicle tome 11, consacré au à Deuteros, des Gémeaux, qui sont en France, même jour que Saint Yasho, tome 4. 19 décembre, le chapitre 29 de Saint Yasho. Le 24 décembre, le DVD-BR Blu-ray, Soul of Gold, volume 6, épisodes 12 et 13, le dernier. Courant décembre, la Midclough de Ptolémy de la Flèche, et retour de Deck Dimension à l'automne. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette émission. On va remercier nos invités, David.
Ouais.
David, dessinateur amateur.
Bravo, David.
Merci.
Il est venu du Sud pour nous rendre.
C'est sa première.
Ouais, sa première, on l'a bien dépuché.
Ils m'ont dépucelé.
Voilà.
On s'est mis à quatre.
Tant que Pedro, hein, parce que c'est. Non?
On remercie aussi Ouv, notre dessinateur de notre
merci
logo.
Sans
qui notre page Facebook ne se ferait pas aussi belle. Voilà.
Je vous entends le compliment.
À suivre sur Amilova pour le Hell Chapter, une page tous les dimanches.
Tout à voilà. fait.
Et sur ses projets plus professionnels avec Stranger.
Tout à fait. Chez Hexagon Comics.
Voilà, chez Hexagon Comics. Philippe, on remercie aussi sur sa page Soul of Gold France. Toutes les bonnes infos, les bons petits fanards aussi, les partages, hein, rien ne lui échappe.
Ah bah, c'est l'objectif, hein, c'est de mettre les autres en avant. Hein.
Voilà, heureusement qu'on est
là pour acquiser tout ça, hein, parce que.
Ah bah oui. on remercie aussi Pedro qui vient, sa future émission sera bientôt en ligne, hein, la première.
Ah, je travaille ardemment dessus. Tous
voilà.
Les jours.
Voilà, voilà, tout à fait.
Je suis surchargé de travail. Non, alors pour le coup, non, sérieusement. Il y a une tournée. J'ai écrit, la phase de l'écriture est terminée, la phase de recrutement des gens est terminée. Il me reste plus qu'à récupérer le matériel. Voilà, mais c'est juste que j'ai rien de concret. Voilà.
C'est quand même pas mal, attends.
Et donc, la prochaine émission.
On remercie aussi Majo, quand même.
Oui, bah, je remercie.
Majo,
oui.
Voilà, merci Majo.
Voilà, merci. Je signe des autographes à la fin de l'émission.
Voilà,
Majo, c'est payant, je vous signale. Et la prochaine émission des Chevaliers au micro, ce sera en fin d'année, ce sera notre bilan de l'année sur Saint Seiya. Ce sera le Chevaliers au micro numéro 13. Voilà, donc suivez-nous sur notre page Facebook Team Micro. Bientôt un nouveau site en ligne, parce que l'actuel est plus d'aplomb.
Arnaud Routier, merci encore.
Le site actuel est une fille.
Oui, merci à Arnaud pour l'avoir dépanné de son cerveau pour héberger les podcasts. Donc voilà, merci à tous, à une prochaine mission.
David, t'es là?
Oui, allô?
Allô?
Ah, mon poulet, alors, qu'est-ce que tu faisais? Ah.
Allô?
Oui, oui, on est là.
Ah, ok, ok. Ah ben, je suis là, hein, aussi.
Merveilleux.
On entend ça.
Bon, il manque plus que Pedro.
Mais regarde, dans le Tenkai, Seiya, il a brûlé son cosmos à la fin contre Apollo, mais il était à poil, hein, il était les couilles à l'air avec Athéna derrière.
Ah, qu'est-ce qu'il était fort, alors, hein.
Ah bah ouais.
Il a réussi à les brécher avec les burnes à l'air. Faut le faire, quand même.
qu'est-ce que t'as besoin d'une armure, maintenant, c'est ça?
La honte devant les autres dieux, quoi. Dis donc, ouais. Apollo, on a vu Instagram, tu t'es fait la branler par un mec à poil. Hein. Ouais.
En fait, il s'est pris un coup de queue, et puis ça lui a coupé la joue, quoi.
Ah bah,
une bifle. On appelle ça une bifle.
Voilà. Il était trop pudique et voilà.
Et ben je vois, lors de ton intro, évite d'être trop dans le côté marchand de poissons. Sois plus naturel, sois plus fluide.
Il parle de fluide, de défoncer.
Non mais ne fais pas genre. Et attends de monter les décibels avec nos micros. En avant.
En avant.
Et c'est parti. Maintenant, c'est pour la prochaine émission.
Attends, il a le droit de parler comme un présentateur de télé. Hein.
Mais c'est pas un présentateur de télé, il parle comme un présentateur de télé qui serait redoublé par un mec asthmatique qui a un problème des bronches. Donc non.
Pour toi, public, je suis Jules Pau, manager de star de l'éternel.
Voilà.
Soul of Gold, le gros débat de ce podcast.
De ce podcast. Tout est à l'ordre.
Allez, répète-le 10 fois.
39,99. Prix TTC. Donc, je vais d'abord donner mon avis et ensuite j'interrogerai mon collègue Pedro et notre invité David.
Supérieur, Pedro, je préfère.
Mettre Pedro sur un arbre perché.
Supérieur, c'est individu.
Non, je tiens dans mon bec, c'est majeur que j'ai dans mon bec. Fais attention à ce que tu dis quand même.
Donc, ce coffret bénéficie d'une très, très bonne qualité d'image, sauf.
Voilà, merci Majo pour ton commentaire, c'était très intéressant.
De rien. Hein. Bon, bah c'est bon. On est à 11
minutes. Rien, tu vois.
Ah, le suspense.
Ouais.
On reprend, messieurs, dames. Messieurs, dames, tout le monde est prêt?
Bah c'est bon, on te fait chier ou quoi, la majorité?
Ouais,
là.
Bah oui. C'est moi le chef.
T'as une émission enregistrée ou?
Bah oui, normalement, ouais.
Allez,
ça marche bien, tout le monde part en couille. C'est l'émission, tout le monde, je sais pas pourquoi.
Allez,
pas
le signal, on s'y
remet. Pouet,
Enriar, ces guerriers d'exception qui étaient morts bravement lors des combats d'Asgard.
Eyenhar.
En allemand, c'est Ein, mais je dis rien.
Ouais, on s'en fout. Après leur supposé.
Ah, mais justement, c'est pas.
En deux secondes, ce que je me disais aussi.
Non, mais c'est pas allemand, justement, c'est nordique. Donc c'est pas allemand, ça se dit Regenhard. Voilà.
Regenhard.
Putain, le mec.
Donc c'est guerrier d'exception qui est mort.
C'est le nom d'un personnage dans Okuto no Ken 2. Enfin, ça n'a rien à voir, mais.
Je vais reprendre.
Et là, ça n'a pas enregistré.
On va le refaire une quatrième fois. Comme je joue pas au jeu, forcément, je vais rien dire.
Qui c'est qui a joué
euros, ça fait chier.
Qui a joué à Soldier Soul là?
Personne.
Moi qui couchais un peu. Ouais.
Bon bah ouais, on va essayer de.
Alors, oui, bah c'est moi d'abord qui donne mon avis et après c'est toi.
On va commencer par moi un peu là. Voilà.
D'accord, c'est toi, ok.
Eh, vous battez pas les filles, oh doucement.
Non, mais c'est Majo, c'est moi qui. Bah non, c'est quoi
moi, le chef.
C'est quoi David? Bah, David,
c'est toi qui a commencé alors.
C'est quoi David, tu commences, voilà.
Non, allez-y, je veux rigoler d'abord.
Donc je vais d'abord faire une petite présentation.
Que... Super, on attend que ça. Allez, est-ce que tu sais, Ouv, combien de temps il faut à deux Super Saiyan pour changer une lampe?
Ah merde, alors ça, non, je sais pas, vas-y.
Bah, 5 épisodes, et à la fin, Krillin, il meurt.
j'avais dû l'entendre avec beaucoup plus d'épisodes que ça.
Ah, mais faut préparer le matos avant 5 épisodes pour préparer le matos.
Majo, on a fait la blague, on a bien rigolé.
Et c'est...